dans le tempo, c'est déjà l'épisode 11. On est parti. Nous revoilà, bienvenue dans le tempo. On vous a promis qu'on reviendrait plus régulièrement. Eh ben on y est. DLT, c'est donc tous les 15 jours maintenant. Par contre, la recette reste la même. On parle de tous les aspects de la musique dans ce podcast, vous le savez. On essaie d'aborder des thèmes passionnants à chaque fois pour tous les amoureux de la musique. Et comme toujours, je suis évidemment avec mon acolyte Chrono Musique, Michel. Comment ça va, mec ?
Ça va et toi ? Non, ça va pas du tout. Pourquoi j'arrête pas de dire ça va alors que ça va pas ?
Mais parce qu'il faut dormir.
Je mens aux Français à chaque fois. Je peux pas continuer à mentir aux Français. Ça va mal, les amis. Tout va mal. Tout part à volo.
C'est une question de sommeil, tout ça, on est d'accord ?
Non, c'est Macron.
C'est Macron ?
Non, c'est Macron. Il casse les couilles. Non, ouais, je dors pas assez. Je dors pas assez. J'ai été m'endormir, il était 5 heures. Bon, voilà, j'ai dormi 4 heures, un truc comme ça. J'enchaîne ce truc, ce rythme de merde, j'ai une hygiène de vie déplorable, mon bon Salman, je suis foutu.
Écoute, on va rattraper ça avec une émission de qualité. On va se mettre bien, comme ça. Avec un épisode qui pourrait être utile sur le sommeil, par exemple, tu vois. On pourrait essayer de te transmettre les bonnes façons de dormir. Eh bien, figure-toi, Michel, qu'on peut aussi transmettre les bonnes façons de faire dormir.
Oh là là, cette transition c'est incroyable. Légendaire. Non, est-ce qu'on ne serait pas sur un épisode sur la transmission, Salman ?
Eh bien, c'est exactement ça, Michel. On ne peut rien te cacher.
Ah oui.
Épisode dédié à la transmission, épisode 11. La transmission de la musique, évidemment, dans la musique de manière générale. Parce qu'on est parti un peu du constat que la musique est un phénomène culturel extrêmement divers, notamment à travers des genres musicaux variés, des codes, des histoires spécifiques, parfois même des représentations du monde, des discours, des valeurs qui passent à travers un genre musical. Et donc, il y a toujours une forme de rapport au passé dans tout ça. Qu'on soit caution ou non, il y a toujours une forme de transmission qui se passe dans le cadre musical. Et plus spécifiquement, dans l'émission d'aujourd'hui, on va se demander comment, en tant que musicien, on peut s'emparer de cette question. Est-ce qu'on doit s'inscrire dans la transmission ? Est-ce qu'on doit véhiculer une mémoire ? Est-ce qu'on doit propager son art et faire en sorte que les autres l'utilisent, se l'approprient ? Pour traiter de ce sujet, un sujet vaste, complexe, on reçoit un homme, un rappeur, qui justement dédie une bonne partie de sa vie à transmettre son art et ses connaissances de la musique. C'est Kondo, bienvenue Kondo, c'est un grand plaisir de te recevoir, comment vas-tu ?
Ravi d'être là, je suis content d'être dans le tempo avec vous aujourd'hui, ouais. C'est cool.
Écoute, c'est un plaisir, d'autant plus que déjà je connaissais ta carrière en tant qu'artiste. Je vois en plus que tu es actif ces derniers temps, tu fais des émissions sur Insta, etc. Il y a des connexions un peu communes, etc. Donc ça fait longtemps qu'on voulait parler de ce sujet et on s'est dit que tu étais la bonne personne. Mais peut-être justement, pour que nos auditeurs sachent un peu plus qui tu es, que Michel peut nous faire une belle présentation. Bon, voilà, rappelle-nous qui est Kondo, Michel.
Vous voulez savoir qui est Kondo ? Ben, je vais vous le dire.
Oui.
Donc Kondo, tu es une figure importante du hip-hop en France. Le grand public te connaît pas forcément, mais le milieu du rap, c'est sûr. Donc t'es actif depuis le milieu des années 80, avec notamment ta rencontre avec Zoxy et Mélophilo, donc les fameux sages poètes de la rue. T'as été membre du collectif La Clica, ça on s'en rappelle tous quand même, aux côtés de Daddy, Lordsy et Roca. T'as notamment sorti l'EP Conçu pour durer, qui encore aujourd'hui est considéré comme un classique. Ensuite, t'as mené une carrière solo sur plusieurs albums, des featuring avec aussi la nouvelle génération, Nekfeu, ou A2H. Et ce lien avec les différentes générations du rap, il se retrouve aussi dans tes autres activités. Donc, en parallèle de ta carrière artistique, tu développes des activités d'accompagnement d'artistes et de coaching dans différentes structures. Donc, t'as notamment accompagné un 995 et Esprit Noir. Très très chaud, Esprit Noir, allez écouter ça. Et tu donnes aussi des cours au conservatoire de Puto et de Sergi Pontoise. T'animes des ateliers dans le milieu carcéral, t'as participé à des conférences, des documentaires sur le hip-hop, etc. Est-ce que tu penses que c'est un bon résumé ? Est-ce que tu as des choses à ajouter ?
Non, c'est bien dit. Alors, actif depuis le milieu des années 80, non, je vais plutôt dire depuis...
Tu découvres le rap au milieu des années 80, quoi.
Voilà, c'est ça.
Presque les débuts en France, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est quand ça commence à devenir un mouvement un peu populaire, un peu plus grand public, et là, tu t'empares du truc, quoi.
Ouais, je dois faire partie de la troisième ou quatrième génération de rappeurs français. Et puis, ouais, c'est vrai que souvent on résume ma carrière à la Clica, mais la Clica c'est 4 ans de carrière sur une, finalement sur une carrière qu'on fait 25. Ouais. Donc ouais, j'ai 5 albums à mon actif et puis pas mal de projets qui sont des projets transversaux, connexes, j'ai fait pas mal de featuring aussi avec des beaucoup de gens du jazz, avec le collectif Black Stamp entre autres, avec des gens comme Jacques Schwarzbart, je sais pas, des ingénieurs du son comme The Dragon, plein de trucs en fait qui ont rapport avec le rap et puis parfois beaucoup moins. J'essaie d'avoir une vie d'artiste complète.
On voit déjà tes petits cadres derrière toi qui sont témoins d'une espèce d'affection pour le jazz au moins déjà.
Ah ouais, c'est clair, moi les musiques que j'affectionne, ce sont les musiques mères, hein, le jazz, la soul. Je suis très funk aussi, mais c'est vrai que la soul et le jazz, c'est deux musiques qui me transportent et avec lesquelles j'adore travailler. C'est la base pour moi.
Vous l'aurez compris, donc Kondo, rappeur, mais aussi passeur, professeur, passionné de musique et de hip-hop en particulier. Il va être précieux donc pour parler de la notion de transmission dans la musique. Kondo, ce qu'on s'est dit avec Michel, c'est qu'on allait diviser quand même ce podcast en plusieurs parties parce que c'est une thématique très riche. On va mettre de côté quand même certains pans qui sont importants, mais qu'on abordera peut-être avec quelqu'un d'autre. Je pense notamment au travail de mémoire qui peut être réalisé par nombreuses structures, des associations, des chercheurs qui tentent d'archiver, d'analyser certaines musiques, que ce soit des musiques traditionnelles, régionales, du monde, des musiques qui ont accompagné les migrations en France par exemple. Il y a tout un travail comme ça qui existe, vraiment tout un tissu en France. J'aimerais bien qu'on en parle un jour, peut-être avec, je sais pas, un anthropologue, un historien, un musicologue. Donc ça sera pas ce côté-là de la transmission. On va surtout se nourrir de ton expérience en fait, Kondo, parce que tes projets s'articulent autour de plusieurs axes, plutôt l'action culturelle, voire sociale, l'enseignement, l'écriture, l'accompagnement pour l'enregistrement, le travail des performances live, tous ces aspects-là que tu connais bien. Donc on va essayer comme ça d'organiser la discussion à partir de tous ces éléments. Pour commencer, peut-être l'aspect un peu culturel des choses, la transmission d'une histoire, d'un mouvement, de valeurs éventuellement, parce que je sais que c'est un truc auquel t'es sensible. Commençons avec cette partie, et peut-être pour débuter tout simplement, tes motivations à l'origine. Parce que tu avais une carrière d'artiste.
Tu peux parler au présent. Hein.
Oui,
je suis avant tout un artiste. Et c'est vrai que c'est un peu la difficulté qu'on peut avoir en France. C'est-à-dire le fait de réussir à faire accepter qu'en fait, on n'est pas monolithique. Quoi. Moi, je suis pluriel. Donc, je suis un artiste et plein de choses, en fait. Et d'ailleurs, je crois que l'artiste 2.0, c'est aussi ça, quoi.
Bien sûr, quand je parlais, t'avais une carrière d'artiste, que je me replongeais au moment où tu as dû faire le choix de... À ce moment-là, t'étais en plein dans une carrière d'artiste. C'est encore le cas aujourd'hui, bien évidemment. Mais à ce moment-là, tu te lances dans l'idée que tu vas transmettre. Alors, j'imagine aussi qu'il y avait peut-être une question... il faut taffer, il y a peut-être une question financière qui s'est posée, mais...
Pas du tout.
Même pas. C'était une volonté dès le début. Si tu t'es dit, il faut que je transmette les choses, quoi. Il faut que je.
Alors déjà, j'appartiens à la culture hip-hop. Et ce mot-là, déjà, le mot culture hip-hop, il change tout parce que déjà, j'appartiens pas au rap game. J'appartiens à la culture hip-hop. Et dans la culture hip-hop, t'as un pan de ma culture qui est la transmission. C'est-à-dire, j'ai une phrase qui me construit depuis que j'écoute du rap. C'est une phrase qui vient des Poor Righteous Teachers, et c'est « Each one teach one ». Ça veut dire vraiment « Chacun apprend de chacun et chacun enseigne à chacun ». Et si je n'avais pas eu des gens comme ça qui m'avaient filé le peu de connaissances qu'ils avaient, bah, je ne serais pas là où je suis. Et donc déjà, je pars de cet endroit-là qui, en fait, c'est ma culture qui me pousse à transmettre ma culture. Parce que si jamais il n'y avait pas des gens comme moi ou nous tous, de génération en génération, qui se transmettaient un peu le flambeau de... D'où vient cet art, comment il a été conçu, par qui et pourquoi, et ben aujourd'hui, en 2021, ça n'existerait pas et ça n'aurait pas l'ampleur que ça. Donc, j'ai commencé à rapper à l'âge de 13 ans. Je crois que finalement, la première personne à qui j'ai appris à rapper, c'était L.I.M., donc au Pont de Sèvres, et je devais avoir 15 ans. Et le premier atelier d'écriture que j'ai dû faire, j'ai dû le faire à 18 ans. J'avais été engagé par le badge à Boulogne-Billancourt. Et puis ensuite, j'ai bossé pour une association qui s'appelle Musique pour tous, où là, je donnais des cours de beatmaking et de rap avec mon acolyte Narcisse à l'époque, qui était lui dans le cercle vicieux. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est là depuis toujours, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai jamais eu à faire un choix entre transmettre et faire mon art. En gros, c'est faire mon art, eh ben, ça consiste déjà à diffuser un message, diffuser de la musique, et donc forcément transmettre aussi.
C'est marrant parce que tu vois, je te posais la question, j'émettais l'hypothèse, tu vois, qu'il y avait aussi une question financière dans le sens où il faut bien bouffer aussi en tant qu'artiste. Et parce que je le vois autour de moi, il y a aussi de nombreux artistes qui, pour faire leurs heures d'intermittence par exemple, etc., se tournent aussi vers les ateliers, vers la pédagogie, etc. Mais toi,
Tout à fait,
c'était.
et c'est louable, et c'est louable. Par exemple, c'est en fait aujourd'hui, si on peut faire des ateliers de rap, d'écriture, etc., bah, je pense que je suis en grande partie, je suis partie de ces gens qui ont permis que ça puisse se produire. Parce que j'ai commencé en fait la transmission, la pédagogie artistique autour du rap, il y a déjà 25 ans. Et qu'il y a 25 ans, on était très peu. Il y avait beaucoup de gens ont fait ça en slam, beaucoup. Parce qu'effectivement, chez les slammeurs, il y a beaucoup d'anciens rappeurs. Mais avant ça aussi, il y avait peu de gens qui s'étaient posé la question de savoir si le rap, ça pouvait s'apprendre. Moi, quand j'ai commencé à rapper, en fait, on nous expliquait que le rap, c'était pas de la musique, que c'était avant tout une forme d'expression, et que cette expression-là, elle n'était pas cadrée. Moi, dès que j'ai eu 17-18 ans, je lui ai dit, mais vous plantez complètement. Si vous oubliez l'aspect musical du rap, y compris dans la partie vocale, eh ben vous allez droit dans le mur. Et donc, j'ai dû, faute d'avoir des gens, par exemple, qui pouvaient me définir c'est quoi un bon flow, c'est-à-dire que moi qui étais élevé à l'école américaine, j'ai toujours su entendre les a cappella comme des lignes musicales, comme des traits, comme des gestes musicaux. Et quand j'étais dans la clica, même un peu avant, en fait, il n'y avait personne qui était susceptible de m'expliquer pourquoi un tel avait un meilleur phrasé qu'un tel, pourquoi un tel était meilleur qu'un tel. Et moi, j'entendais tout simplement que c'était d'abord une affaire de rythme. Et un peu plus tard, justement, j'ai commencé à mettre l'aspect mélodique là-dedans. Et pendant près de 20 ans, je me suis retrouvé seul dans un grand désert à paver la voie pour dire, attendez, le rap, c'est un geste musical qui est complexe, qui est riche, qui découle d'une culture. Et bien, puisque j'ai pas le public pour comprendre ça, va falloir que je le crée, donc va falloir que j'enseigne, que je transmette.
Et donc, si je comprends bien, est-ce que d'une certaine manière, c'était comment était vu le hip-hop à l'époque, les lacunes en fait qu'il y avait autour de cette culture, à la fois auprès du grand public et peut-être aussi dans les structures qui permettaient d'enseigner, etc. C'est face à ce constat un peu de certaine manière que tu t'es dit je m'y colle quoi.
Ouais, parce qu'il fallait bien quelqu'un pour s'y coller. Par exemple, moi, je sais que j'ai transposé ma culture jazz à la culture hip-hop. Je sais que j'avais du mal à comprendre le jazz, tu vois. Et puis, je me souviens d'un pote qui m'avait dit, écoute, tu devrais démarrer avec Kind of Blue de Miles Davis. Et ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'en écoutant Kind of Blue et en lisant un peu son histoire, j'ai compris que c'était un disque pour faire comprendre les richesses du jazz et montrer que c'était une musique et une culture qui était pensée. Et donc je me suis dit, bah, il faudra bien un Kind of Blue en hip-hop, c'est-à-dire avec quelle clé, quel album va me servir de clé pour rentrer dans le rap et dans la compréhension de ce que peut être le rap. Et même, je dirais, la quintessence du rap. Et c'est pour ça que quand on est arrivé quelque part en radio et qu'on a rencontré Daddy Lortie puis Roka avec mon premier groupe, Coup d'État Phonique, eh bien, on s'est reconnus. C'est-à-dire qu'on était très peu de rappeurs à avoir une vraie perspective de musicalité dans notre phrase et dans notre flow. Tu vois, c'est-à-dire comment, quand tu écoutes quelqu'un juste avec de son a cappella, tu te mets à bouger la tête et en même temps entendre ses phrases musicales, ses lignes mélodiques et se dire, OK, tout ça, c'est pensé, c'est pas le fruit juste d'un ressenti et d'un hasard.
Tu dis un truc intéressant, je pense que pour qu'on puisse transmettre quelque chose, il faut penser effectivement. Il faut penser cette musique ou n'importe quelle musique d'ailleurs, et pour ensuite essayer d'en tirer un enseignement et pouvoir transmettre ça. Et
Ça dépend ce que tu appelles transmettre, je trouve.
ouais, qu'est-ce que t'en penses toi tout ça de Michel? Est-ce qu'il faut penser la musique, comment on la transmet, etc.
Ben, ça dépend ce que tu appelles transmettre. Si, enfin, il y a des gens qui peuvent te transmettre une envie de faire un truc juste en faisant un truc. Genre, il y a des gens qui peuvent te transmettre. Moi, quand j'étais petit, j'étais vachement influencé par Lil Wayne, par exemple, tu vois. Et genre, Lil Wayne, juste, je comprenais pas forcément ce qu'il faisait, mais l'énergie qu'il dégageait, il y a ce fameux freestyle In the Booth où il est là avec Birdman, il arrive, il pose son bandana rouge sur le micro et puis il lâche un freestyle et il est comme ça, et on dirait il flotte et tout, tu vois. Et ce truc-là, il te transmet... Enfin, moi, en tout cas, il m'a transmis une envie, tu vois, de diguer ce truc-là, de tester moi-même et tout, tu vois, sans forcément qu'on me dévoile des clés de comment ça fonctionne, tu vois.
Tout part de là, en fait. C'est-à-dire que déjà, tout part d'une envie. C'est-à-dire que on fait de la musique parce que on a écouté des choses, on a été nourri par des choses, on a été touché par des choses. C'est surtout ça. Transmettre, c'est avant tout... donner l'envie de faire et l'envie de se rejoindre, en fait, hein. L'envie d'écouter, l'envie de découvrir, ça commence par là.
Est-ce que justement il y a, est-ce qu'on pourrait, de manière un peu schématique, hein, mais diviser, parce que ce que tu dis, Michel, je le comprends tout à fait, c'est la base, en fait. C'est tu fais kiffer les gens, tu commences à te passionner pour un truc, tu te butes au truc, et ça passe pas forcément par la volonté du mec, en fait, d'être dans l'enseignement ou la pédagogie, mais juste dire moi je fais mon truc, je l'offre au monde, et après advienne que pourra, et si ça vous fait kiffer, bah c'est trop bon, tu vois, et, ouais. Et ça contamine des gosses et des passionnés, etc. Et c'est la base du truc, évidemment. Mais il y a aussi une autre étape qui est celle à laquelle tu t'es adonné, Kondo, qui est un truc peut-être quand même plus de se dire, je vais pas seulement proposer mon art, mais je vais en plus lui donner une forme d'explication ou tout un truc autour pour le complexifier et peut-être aussi lui permettre de repérer pourquoi pas des codes. Tu parlais du flow, par exemple, tu disais, je comprenais bien ce que ça voulait dire le flow, mais j'avais peut-être pas, il n'y avait pas les éléments pour réellement le décrire, etc.
Alors, moi, je savais parfaitement le décrire. Enfin, ouais. J'ai mis du temps, mais en fait, j'ai bien, il y a un moment, j'ai posé une définition. J'ai dit, c'est quoi le flow? Déjà, une des premières définitions, c'était, c'est quoi le rap? Bah, déjà, rapper, c'est parler en rythme sur de la musique. Tu vois. Chanter, c'est parler en rythme sur de la musique avec des hauteurs de notes. Il y a des hauteurs de notes dans le rap, mais quelque part, on va dire que l'ambitus qui est proposé, c'est-à-dire l'étendue mélodique qui est proposée dans le rap, est moins importante que l'étendue mélodique qui est proposée dans la chanson, et la précision mélodique est moins importante.
Moi, c'est pour ça que j'ai pas mal de mal avec l'idée que... Enfin, tu sais, tout ce qui est musique urbaine, on le met... Enfin, déjà, le nom musique urbaine, tu vois, mais genre... le fait que... En gros, moi, j'ai vraiment du mal avec la terminologie. Enfin, j'ai du mal. Non, au final, je m'en fous. Mais tu vois ce que je veux dire? Le fait que maintenant, on appelle rap des chansonnettes, en fait, tu vois. Genre, ouais.
Mais rapper, c'est chanter. C'est-à-dire que ça aussi, ouais. j'ai mis du temps avant de le comprendre. En fait, c'est vraiment... Ça a été dur pour moi. Ça a été même un travail de fond, d'accepter de me définir comme étant un chanteur. Parce que pendant plusieurs années, je refusais ça. C'est-à-dire, j'estimais que rapper, c'était pas chanter. Donc, il était important de comprendre que ce qu'on faisait, c'était de la chanson. Par contre, c'était un style spécifique de chanson, et donc ça répondait à des codes.
Ouais, et ça implique certaines... Enfin, moi, en fait, c'est ça que je trouve intéressant. Enfin, a posteriori, quand j'analyse pourquoi je trouvais le rap aussi intéressant... bon, t'as le choc de la culture, t'as tout ce truc, mais t'as tout ce truc de la contrainte et d'être justement limité par le fait que t'as pas de structure mélodique à proprement parler, t'as pas de résolution, enfin, tu vois ce que je veux dire, t'as pas de...
Et pourtant, tu vois, tout le rap, c'est basé, justement, toute l'approche du flow, elle est basée sur ce qui rythme la musique en permanence, à savoir les tensions et les résolutions. Tu vois, par exemple, si je fais... mes doigts ascris sur du papier, se braquent, les taux se ferment, je me sens épié dans un guet, puis contracte, mon cou serre, en danger dans la faune électrique des villes, en civil, je porte en ma couleur l'exil d'Afrique origine polyglotte, yo, parlant toutes les rues adaptables, c'est en camouflage que j'analyse et transmets le câble, paranoïaque, notable, dans mes étapes, je capte, tu vois, il y a trop de trucs, tu vois, déjà, il y a un accordage, il y a la note, cette note-là, elle est toujours là, donc il y a un accordage, après, il y a, tu vois, il y a toujours un, tu vois, il y a un truc,
ouais, t'as
toujours
des accents,
t'as des accents, mais t'as toujours cette tension.
Il y a quand même un côté plus percussif que mélodique. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Alors, soyons clairs, c'est le rap, c'est quand même l'art de faire du rythme à la voix.
Ouais, voilà.
Et j'ai souvent tendance à dire que le rappeur, c'est comme un percussionniste, tu vois, quelqu'un qui joue des congas.
Ouais, voilà.
Bah, il fait bien des notes, il fait de la musique. Et simplement, sa puissance, elle est dans son écriture rythmique. Et bien ça, par exemple, tu vois, Salman, ça m'a pris 10 ans pour faire comprendre cette idée, juste accepter cette idée. Au fait, ah ouais, le rap, c'est une science du rythme. Bah, Tu vois, j'ai bossé avec des gens qui étaient des spécialistes, des pédagogues de la voix. Et comme ils n'abordaient jamais le rap de cette façon-là, tu sais, quand j'arrivais avec ce paradigme, en disant, en fait, tu te plantes, ton regard, il n'est pas sur le texte. Ton regard, il n'est pas sur l'énergie. Ton regard, il doit être sur le focus, il doit se faire sur le rythme. Et là, tout d'un coup, c'était la découverte, quoi. Et de là, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à faire des recherches autour de ça et de commencer à avoir cette approche et comprendre ce qu'est l'expression artistique rap en ayant le bon paradigme.
Est-ce que tu penses que c'est que tous les musiciens naturellement, mais sans avoir conscience, questionnent un peu tout ça? Est-ce que ça dépend des artistes, certains? Est-ce que tu me dis si je me trompe, mais c'est quand même une manière aussi un peu d'intellectualiser la musique, en tout cas de réfléchir à la discipline, à la pratique, etc. C'est pas tous les artistes qui font ça.
Non, tous les artistes font pas ça parce que tout d'abord est une affaire de sensation et de feeling. Mais après, j'ai envie de dire, et de gestes, mais en fait, ce geste-là, il y a un moment, c'est soit c'est ton art qui te domine, ou soit t'es un maître dans ton art. Et donc, pour moi, en fait, l'idée de maîtriser mon art, c'était de comprendre ce que je faisais et pourquoi je le faisais. Il s'avère que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai quand même eu la possibilité, tu vois, de faire des cours d'art plastique dans ma jeunesse, où j'avais un prof qui nous disait ça, qui nous disait, en fait, avant de vous lancer, en fait, sur votre toile, qu'est-ce que vous voulez faire et quel procédé vous allez utiliser et comment tout ça va soutenir votre idée. Et donc, il y a un moment, tu es dans le feeling et puis tu jettes ce que tu as dans le corps, dans le cœur et tout, mais il y a un moment, tu dis, OK, j'ai envie de transmettre une idée de manière précise, il va falloir que j'utilise tous les procédés qui sont à ma disposition pour que ça tape le plus dans le mille possible. On vise, en fait. Et justement, pour moi, la maîtrise, c'est ça, c'est viser dans le mille. C'est ce qu'on cherche à faire. Quand à un moment t'avances dans ton art, tu veux taper dans le mille. Et ce truc, c'est que avant de taper dans le mille, il faut déjà que tu aies construit une cible. Tu vois, donc si tu cibles pas, tu peux pas progresser et donc tu peux pas non plus déterminer pour toi quels sont tes axes de progression. Mmh. Au départ, quand j'étais jeune rappeur, ce qui m'intéressait, c'était juste déjà d'écrire des textes, en fait. Avoir de l'inspiration, c'était le premier truc. Oh merde. Et puis après, une des questions, c'est pourquoi le rap américain, ça sonne mieux que le rap français? Ça a toujours été ma question pendant très longtemps. Et donc forcément, il y a un moment, j'ai fait « Ouais, mais en fait, il rythme mieux. » Et après, j'entendais justement ces notes-là, je les entendais, mais je ne pouvais pas les définir. Mais effectivement, je me disais « Tiens, il y a un accordage vocal. Il y a des choses qui sont un peu précises. » Des fois, j'allais en studio avec les membres de la Clica et je me disais « Tiens, il y a des fois, ça rappe faux. » C'est-à-dire, c'est pas dans le son, c'est pas dans l'instru. Pourtant, tu vois, le gars, rythmiquement, il est en place et tout. Même moi, il y a des fois où rythmiquement, j'étais en place et je disais « Ah, fais chier, ça sonne pas comme il y a dans ma tête. » Et donc, plus tu veux comprendre et plus tu veux t'améliorer, là, plus tu es amené à te poser des questions. Et à un moment, t'as répondu à un certain nombre de questions. Et là, t'as envie de te... Enfin, voilà, toute l'encyclopédie que t'as, t'as envie que les gens, ils comprennent parce qu'il y a des gens qui écoutent ton truc et qui te disent « Ouais, mais... un tel est meilleur que toi. » Et t'écoutes la personne avec qui on te compare, tu dis « En fait, non, rythmiquement, le truc n'est pas là, vocalement, c'est pas en place. » Et tu te rends compte qu'on n'a juste pas le même paradigme. Donc, on ne parle pas des choses du même endroit. Moi, je sais qu'il y a un moment, il y avait ce débat-là. « Est-ce que Tupac est meilleur que Nas ?» Moi, dans ma réponse, c'était ça. Dans mon époque, c'était ça. Et moi, je me prenais la tête avec des potes pour leur dire « Non, en fait, ce que t'aimes chez Tupac, c'est pas son flow. Ce que t'aimes chez Tupac, c'est sa personnalité, c'est sa rage, c'est sa façon d'investir ses textes, c'est les sujets qu'il traite, c'est son énergie. Mais ça n'a rien à voir avec le rap. Vocalement, celui qui présente le plus de caractère, alors, je vais pas dire le mot technique, mais pour moi, c'était ça, c'était une technique et le plus de musicalité, c'était Nas, point. Et j'ai eu le même débat avec Rof et Booba. Et tu vois, il y avait souvent, on me disait, ouais, non, mais... Booba rappe mieux que Rof. Mais non, ce que tu préfères chez Booba, c'est ses punchlines. Ce que t'aimes chez lui, c'est son approche, en fait, c'est son charisme. Mais par contre, s'il fallait vraiment faire décortiquer rythmiquement ce que vaut l'un et ce que vaut l'autre, moi, je dirais que rythmiquement, Rof est beaucoup plus intéressant, il a beaucoup plus de variations, beaucoup plus de palettes dans sa façon de rimer, de faire de la musique avec sa voix, que Booba. Mais c'est normal, on ne cherche pas les mêmes choses. Voilà.
Ça doit te parler, Michel, un peu tout ça, parce que l'idée de voir sa pratique, son art, comme une discipline, avec réfléchir à quels sont les mécanismes derrière tout ça, comment ça fonctionne, etc. Parce que je sais que tu as ce rapport à la musique, toi.
Ouais, moi, c'est pour ça que je fais de la musique. Moi, je fais de la musique pour comprendre comment ça marche, tu vois. Donc, ouais. Je trouve que le parallèle entre... Enfin, toute l'opposition qu'on fait entre Booba et Rof, ça me fascine assez bien, parce que ils sont vraiment opposés sur tout. Tu vois, donc, là, ici, j'étais dans ma tête en train de me dire, oh, c'est vrai, enfin, tu sais, t'as le côté, sur le fond, ils ont rien à voir, sur la forme, ils ont rien à voir, idéologiquement, ils ont rien à voir. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc où c'était un clash un peu inévitable, tu vois. Et, je trouvais ça intéressant.
Pourtant, c'est du rap.
Pourtant c'est du rap. Pourtant, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le rap, on cherche pas tous la même chose dedans. Effectivement, tu vois. Moi, j'aurais pas tendance à. C'est ma vision à moi, tu vois. Mais moi, ce qui a défini mon rapport au rap, c'est le choc que je me suis pris, tu vois. C'est en fait, si j'écoute un morceau de rap et que je suis pas choqué, je suis pas content à la fin, tu vois. C'est pas que je suis pas content, mais genre ouais, je me dis ouais, bon voilà, c'est un morceau de rap, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est être choqué. J'aime bien, pour ça, j'aime bien un Despo ou un Freeze ou même un Booba. Je trouve, il a des trucs qui sont vraiment très percutants, tu vois.
Alors, surpris ou choqué?
Ouais, c'est un peu les deux, tu vois. Kalash Criminel, il a ça aussi, tu vois, ce truc où c'est évidemment, tu penses à la punchline. Mais t'as globalement aussi tout le jeu de l'image, etc. Je suis beaucoup plus porté sur le texte que sur la rythmique, paradoxalement, tu vois, parce que je suis plus musicien. Mais enfin, je suis beaucoup plus porté sur la capacité je sais pas comment dire, à t'envoyer une image dans la tête ou tu vois, à te marquer, tu vois. Et en gros, moi, c'est plus ça que je considère important. Dans
ce moi, j'ai pas du tout ce rapport à la musique de manière générale, parce que enfin, c'est pas aussi si tu vois divisé comme ça, genre blanc noir, etc. Ça marche pas comme ça. En vrai, j'aime plein de trucs différents dans la musique, dans le rap, etc. Mais si je dois faire un choix, clairement, je suis mille fois plus sensible aux instrumentales qu'aux paroles. Le texte est quasi secondaire pour moi, je l'assume. Alors, ça veut pas dire que je suis pas sensible à des bons textes, etc. Mais clairement, pour moi, c'est secondaire, tout ça. Et même dans le rap. Et d'ailleurs, si je me suis buté comme beaucoup de monde au rap américain, je captais que dalle, tu vois. Et c'était pas ça qui était important pour moi dans tout ça. Et toi, Kondo, justement, pour revenir quand même un peu à notre thématique, quand tu vas travailler avec des gens en te disant, je vais essayer de transmettre mon art, je vais essayer de les accompagner, est-ce que ça passe forcément par une prise de conscience, travailler déjà cette idée qu'il faut un peu quasi conceptualiser tout ça, se dire c'est une discipline, il y a des codes, il y a différentes approches, voilà comment on peut prendre les choses.
Moi, je suis absolument pas dogmatique. C'est-à-dire que je travaille avec ce que sont les gens. Mais par contre, ça m'intéresse toujours de comprendre où je suis et avec qui je suis et sa perspective. Tu vois, par exemple, t'as pas du tout la même posture quand tu fais du coaching, de l'accompagnement scénique, et que tu prépares à la performance scénique. C'est pas du tout la même posture que quand, par exemple, t'es dans une salle de cours avec un élève qui a 10-12 ans et qui est là parce que ses parents l'ont inscrit. Et c'est pas pareil que de travailler avec un jeune adulte qui se destine à être professionnel et qui passe par le conservatoire juste pour se remettre pour remettre ses bases, quoi, tu vois. T'as pas la même posture aussi quand tu travailles avec des professionnels. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs casquettes. Ce qui m'intéresse, moi, à l'origine, je crois que si j'ai fait tout ça, c'est parce que, dans le fond, j'ai toujours voulu être un producteur à la Quincy Jones, tu vois, ou même à la Barry White. C'est-à-dire, ou même, tu vois, là, un de mes artistes préférés, c'est Isaac Hayes, tu vois. Donc, c'est des gens qui sont et des artistes et des producteurs. Et donc, il y a plein d'espaces que j'ai, il y a plein de métiers dans la musique que j'ai abordé. Je suis ingénieur du son, je mixe des albums qui sont pas les miens, je mixe des projets qui sont pas les miens. Donc, déjà, ça t'apprend à te taire et à écouter. À écouter les autres, à écouter les envies et à faire comme on te demande. Déjà, ça t'apprend une certaine humilité, tu vois. Ensuite, quand toi-même, tu es dans la transmission et que tu te retrouves voilà, à accompagner quelqu'un dans son projet artistique, dans son projet scénique, pareil, tu n'es pas là pour imposer ta perspective, tu es là pour comprendre la perspective de l'autre et lui donner tous les outils dont il a besoin pour que ce qu'il a dans la tête, ça puisse se réaliser. Et donc là, un des outils que j'utilise le plus, ça va être les questions, le fait d'interroger l'envie, la volonté, ça va de pourquoi le groupe s'est formé, quelle était l'ambition première, et après, qu'est-ce que le groupe ou la personne a envie de voir sur scène, et quel chemin ils vont emprunter, et quel sera le chemin le plus efficace pour arriver à l'objectif voulu.
Est-ce que dans tout ça, parfois dans tout ce travail que tu peux effectuer, il y a aussi presque une idée de préserver une mémoire? C'est-à-dire que une histoire auquel t'es attaché, à laquelle t'es attaché, pardon, et de se dire, il faut que ce truc, il continue à vivre. Est-ce que ça peut parfois t'habiter, ça, cette idée qu'il faut faire perdurer les choses, sinon peut-être qu'elles disparaissent petit à petit?
Je pense que tu peux pas avancer dans la vie sans prendre conscience de la mort. Moi, je pense que les choses doivent mourir. Tu vois? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'entre la vision que Chronos a du rap et puis la mienne, eh ben, je vais te dire qu'il y a quelque chose qui s'est perdu entre-temps, mais j'estime que c'est normal. C'est-à-dire que tous les jeunes que je rencontre, qui sont des millennials, évidemment, quand ils me parlent de rap, bah, ils me disent ça, ils me disent « Non, mais si ça choque pas, c'est pas du rap. » Mais moi, par exemple, je me suis battu 15 ans, 20 ans, parce que en gros, notre musique, au départ, elle choquait tellement qu'on voulait pas en entendre parler. Et donc, quelque part, il y avait quelque chose où on devait travailler à la rendre plus consensuelle, plus acceptable, faire comprendre, en fait, d'où on venait. Donc, quelque part, tu vois, la douceur d'un solar avait autant de valeur que l'énergie et la rugosité d'un NTM, tu vois. Mais il y avait besoin d'un solar, en fait. S'il n'y avait pas un solar, s'il n'y avait pas un Akhenaton, des IAM, tout ça, bah, le rap ne serait pas ce qu'il est, quoi. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, ce qui peut-être peut plus m'emmerder, c'est le fait que, encore une fois, tout le monde répond au même paradigme. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une insulte dans un morceau, ça touche pas. Si la personne n'est pas en surjeu, ça touche pas. Si la personne n'exagère pas son propos et n'est pas dans la violence, eh ben, ça fait pas du rap. Et moi, j'estime que mon rap a le devoir d'apporter aussi, de vieillir correctement, donc d'apporter une certaine classe, une certaine rigueur. Voilà, c'est ce que moi, j'essaye de transmettre. Mais je veux dire, le rap que je fais, en fait, il est pour les jeunes qui, dans 15-20 ans, se dire oh, bon, c'est bien ces trucs-là, mais vas-y, j'ai envie de m'écouter un bon petit peu rat avec ma meuf dans mon canapé. Et voilà, quoi, on s'entend bien, quoi. Ouais. Et ça va être compliqué. C'est en votre génération, les gars. Non, je plaisante.
Surtout qu'il y a une diversité folle dans le rap aussi aujourd'hui.
Déjà, il y a une diversité. Et pour moi, justement, j'allais dire, pour moi, c'est un peu... effectivement, il y a tout ce côté, comme ce que le chroniqueur sale appelle c'est quoi, le rap de grossiste. Et pour qu'il oppose au rap de Yankee, ou en mode, c'est le rap super violent, machin, avec tout ce truc de la drill, machin. Moi, j'en peux plus. Mais... pour moi, c'est pas tant dans la vulgarité ou dans la violence que c'est choquant. C'est plutôt, ouais, vraiment dans la force avec laquelle je t'emmène dans un univers qui n'est pas le tien, tu vois. C'est vraiment genre, c'est vraiment ça que j'interprète comme le choc, et c'est ça qui fait mon rapport au rap, tu vois. J'estime pas que ça définit ce qu'est le rap. Pour moi, c'est ce qui définit le rap esthétiquement, c'est clairement quelqu'un qui parle en rythme sur de la musique. Pour moi, c'est ça, tu vois. Mais dans mon rapport au rap, ce que je trouve le plus intéressant, c'est un type qui t'attrape par le callback et qui t'emmène dans son univers. Mais c'est pas forcément, ça peut être aussi bien un Alpha One qui est pas le gros grossiste du coin que un despo, tu vois. Pour moi, la nouvelle génération, ils sont plus justement dans le côté musical, tu vois, du rap, que moi, j'ai l'impression d'être la génération entre les deux, où il y a eu une génération qui était très formaliste et une autre génération qui était plus sur ce truc de la punchline et tout ça, et que maintenant, on est de retour dans un truc plus qui tourne autour de la musicalité et notamment avec les gimmicks et tout ça, tu vois.
Eh ben... Justement, il y a un truc qui m'a toujours fait rire quand il y avait ces débats autour du rap. Parce que j'ai toujours dit, en fait, on fait des raps. Il y a autant de rap qu'il y a d'artistes, en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est vraiment une esthétique. Et dans cette esthétique, chacun vraiment vient avec, avec ce qu'il est, son histoire.
Même si on peut dégager des écoles quand même.
Voilà. Mais aujourd'hui, là où je démarrais, je sais pas, il y avait 3, 4, 5 écoles, début 90, fin 90. Aujourd'hui, pour moi, il y en a 200, quoi. Enfin, et c'est assez marrant parce que ça devient de plus en plus fin, en fait. Par exemple, qu'est-ce qui fait la différence entre de la drill et de la trap? Il y a vraiment des jeux de finesse, quoi, aujourd'hui, alors qu'on va utiliser les mêmes ingrédients, tu vois. Il y a beaucoup de choses comme ça. Voilà, il y a énormément, en fait. On est dans un moment aussi où les musiques se mélangent de plus en plus. Je sais pas si on peut arriver à créer, à définir une espèce de moelle substantifique de ce que devrait être ou de ce que peut être le rap, parce qu'à chaque fois que je travaille sur cette matière là pour le coup en recherche, c'est à dire qu'est-ce qui fait que musicalement, par exemple, vocalement, c'est bon. Le rap, ça y est, on l'a circonscrit. Mais par exemple, instrumentalement parlant, c'est archi compliqué. Parce que c'est quoi la différence entre le... Tu vois, qu'est-ce qui lie la musique de Gangstar à la musique de Lil Wayne, à la musique de Drake. D'ailleurs, même chez Drake, tu vois, il a tellement eu de périodes qu'à la fin, tu vois, tu sais plus ce qu'il définit de manière claire. Voilà, il y a énormément de... Il y a quand même presque 40 ans d'histoire musicale qui se joue à travers ce genre musical-là.
Puis, il y a quand même une particularité aussi dans ce dont on parle, c'est que on glisse facilement de rap à hip-hop. Et est-ce qu'il faut exactement les considérer de la même manière? Parce que je veux dire par là que... on envisage aujourd'hui beaucoup le rap comme une discipline extrêmement variée, avec plein de pratiques différentes, on vient de le dire, on vient de donner des exemples. Est-ce que c'est valable aussi pour le hip-hop qui, au-delà d'être une forme, est aussi historiquement un fond, c'est-à-dire qu'il y a un contexte socio-culturel particulier, même s'il y a eu très tôt des écoles différentes, il y avait aussi parfois un discours, il y avait, tu vois, un truc quand même comme ça. En tout cas, les acteurs de cette scène se revendiquaient comme hip-hop. Aujourd'hui, c'est moins le cas. J'ai l'impression que là, quand tu rappes, tu te revendiques moins hip-hop qu'à une époque, je pense. Est-ce que, justement, parce qu'il faut séparer les deux, parce qu'à ce moment-là, la question de la transmission ne se pose pas de la même manière?
Pas du tout. Effectivement, parce que c'est pour ça ce que je disais au tout départ. Moi, j'appartiens à la culture hip-hop, pas au rap game. Parce qu'aujourd'hui, le rap, c'est le rap game. Ça veut dire que c'est un jeu où on marque des points, où on fait des scores, où on fait des chiffres, où on a un certain nombre de punchlines, un certain nombre de followers. Ça appartient à une culture qui est, en fait, pour moi, la culture de l'industrie. C'est une autre culture. Ou bien, je vais même dire, une culture capitaliste, point.
Même si, dès les débuts du hip-hop, l'industrie est là aussi, très vite, très vite.
C'est pas la culture capitaliste. C'est-à-dire que c'est pas la culture, c'est pas sur ça qu'on se définit. C'est-à-dire qu'au début du hip-hop, tu pouvais venir, bah regarde, comment était traité MC Hammer et puis Vanilla Ice, qui vendaient énormément. Dans la culture hip-hop. Beaucoup de gens disaient, bah non, en fait, ça nous intéresse pas. Pourtant, ils ont œuvré pour la culture hip-hop.
Oui, et en même temps, Rapper's Delight, c'est aussi parce qu'il y a une ambition derrière, tu vois, industrielle, quand même, d'une certaine manière, que ça se fait.
Oui,
tu vois,
bien sûr.
Et c'est crédible, en l'occurrence, Rapper's Delight, tu vois.
C'est Robinson, c'est quoi son prénom?
Oui, je crois. Ouais, là,
bah oui, elle, cette productrice-là, elle a repéré le filon, mais déjà, Rapper's Delight, ça part d'un vol, quoi. Ça parle déjà... Ça part déjà d'un vol de texte, quand même, tu vois. Donc, je ne sais pas si c'était représentatif réellement de la culture hip-hop.
Oui, mais pourtant, ça a œuvré pour la culture hip-hop de manière assez indéniable. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont découvert le hip-hop.
Il ne faut pas se faire avoir par ce focus. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la culture de l'industrie du disque, elle reste l'industrie du disque. Mais une culture, c'est un écosystème. Ce n'est pas que de la musique. C'est-à-dire que quand cet écosystème, par exemple en France, le rap ou même le hip-hop en tant qu'industrie, quand c'est arrivé avec l'émission de Sidney Dutheil, HIP, HOP, il y a un moment...
C'est aussi l'industrie, là.
Ça, c'est l'industrie. Mais quand l'industrie a disparu, la culture est restée. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché l'arrêt de l'émission, ça n'a pas empêché les gens de breaker, ça n'a pas fait comme la tectonique. C'est
bien
resté,
sûr,
ça s'est amplifié.
Mais là où c'est intéressant, c'est que le nombre de gens qui ont découvert le rap, le hip-hop, et qui se sont mis grâce à HIP, HOP, c'est monstrueux.
J'en fais partie.
Bon, Et c'est parce que l'industrie, parce que TF1, alors sauf qu'eux, ils l'envisageaient pas comme une culture, on le sait bien, eux, ils l'envisagent comme une hype, un truc mode, et ils se sont dit, on va le foutre à l'antenne, ça fera plaisir aux jeunes, et ils y ont pas cru, ils croyaient pas que ça serait un phénomène culturel aussi puissant. Pour autant, ça a bénéficié à ce phénomène culturel. Donc, en fait, c'est pour ça que la dichotomie de ces industries, culture, etc., je pense qu'elle n'est pas aussi simple, tu vois.
Non, mais t'as bien posé la question de savoir qu'est-ce qui fait lien entre rap et puis hip-hop. Je crois que t'as bien posé les choses en disant, est-ce que les rappeurs eux-mêmes se considèrent comme appartenir à la culture hip-hop? Je crois que la plupart... Enfin, de toute façon, je peux pas répondre pour eux.
Bien sûr.
Tu vois? Pour moi,
oui, on pose la question, en tout cas.
Voilà, là, je peux pas y répondre à cette question-là, elle appartient à chacun. En tout cas, la culture hip-hop, dans le rap, la question se pose de moins en moins. Parce que, quand même, moi, je le vois plutôt à travers l'axe journalistique, l'axe des chroniques, tout ce qui est proposé, en fait, par ceux qui parlent et qui font la culture, soi-disant, du hip-hop, depuis 10 ans, a peu à voir avec la culture et beaucoup à voir avec les chiffres. C'est-à-dire que on est plus en train de regarder les chiffres de la première semaine de sortie qu'à se demander si un disque est bon et pour quelle raison il est bon ou pas bon. Et qu'est-ce qu'on va réussir à extraire de tout ça. Et ça m'étonne absolument pas, en fait. Parce que de cette dérive, il y a ce truc qui fait que je crois qu'on... Il y a trop d'argent qui sont en jeu. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de médias qui dépendent en fait de l'argent que mettent les maisons de disques sur l'achat d'espaces publicitaires, sur les intérêts des artistes qui défendent. Et en fait, aujourd'hui, on a plus ce qu'on appelle du publi-rédactionnel, c'est-à-dire des maisons de disques qui achètent des espaces pour que leurs artistes existent. Et donc, forcément, il y a quelque chose qui, dans ce système, dans cet écosystème-là, pour moi, se pervertit un petit peu. Après, la culture hip-hop existe, c'est-à-dire que les danseurs sont toujours là, les DJs sont toujours là, les rappeurs sont toujours là. Maintenant, est-ce qu'ils créent le même écosystème qu'au début, où justement, il y avait une fusion, il y avait le vestimentaire qui rejoignait la danse, qui rejoignait le rap, qui rejoignait à un moment l'industrie? Ça, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'éléments... Enfin, que tout ça, c'est un peu plus clivé qu'avant.
J'ai l'impression qu'il y a ce truc de, justement, le côté transmission par la pédagogie. Ce truc-là, c'est un peu perdu et on est plus dans un mode de transmission par l'exemple, tu vois.
Non, 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 ça existe. Je vais même te dire, la pédagogie, c'est devenu aussi un business, hein, soyons clairs. Hein. T'en parlais tout à l'heure, Salman. La pédagogie artistique, c'est devenu un business. Il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent leurs portes. Moi, j'ai regardé sur le net, j'ai vu des formations de rap ou de hip-hop à 7000 euros, quoi. Tu vois, des trucs comme ça. Let's go. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Moi, si j'ouvre une école, je l'appelle micro d'argent. C'est de l'école.
Ah ouais,
micro.
Tu vois ce que je veux dire. Par exemple, pour moi, qui apprendre à rapper, pendant longtemps, ça se donne, en fait. Ça se donne parce que tu veux que ton art perpétue. Et aujourd'hui, non, tout se vend, quoi. Je crois qu'il y a aussi une réflexion de fond à mener tous sur quelle société on veut construire.
Ce que je voulais dire, c'était pas vraiment ça, c'était l'idée de se dire, avant, la culture hip-hop, ça se revendiquait de la culture hip-hop et ça disait, voilà, le hip-hop, c'est ça, il y a ces disciplines-là, il y a ces valeurs-là, il y a machin, etc., tu vois. Et que ici, il y a des jeunes de la nouvelle génération qui lient instinctivement le rap et la sap. Et que dans les clips, t'es obligé de danser parce que sinon, enfin, la gestu, ça rentre vraiment en compte des critères des jeunes pour désigner si un rappeur est meilleur qu'un autre ou pas, tu vois. Donc, je pense qu'il y a encore un vrai bail autour de ce truc-là. C'est juste que c'est plus instinctif et c'est moins revendiqué et c'est moins expliqué, auto-expliqué par la culture elle-même. Je sais pas si je me fais bien comprendre, tu vois.
D'une certaine manière, pour compléter ça, après, tu nous diras, Kondo, ce que t'en penses, mais. Est-ce qu'on peut pas aussi se dire que le hip-hop était une racine avec ses codes? Et qu'en fait, plutôt que de se dire que le rap d'aujourd'hui s'est réellement détaché du hip-hop, disons plutôt qu'il s'est créé tellement d'embranchements qui ont chacun pris quelques aspects qui font que la filiation n'est plus aussi claire et qu'en fait, elle est là en réalité sur plein d'aspects, tu le disais.
La culture, elle est permanente. La culture, en fait, tu baignes dedans. T'es pas obligé d'en faire des études, donc... Oui, on appartient en fait à des rhizomes. On se reconnecte tous assez facilement. Moi, ça m'intéresse, tu vois, de ce que tu disais aussi, Chronos, c'est quand tu parlais de la gestuelle, du corps et de la danse, tout ça. Mmh. En fait, c'est que faut juste se rappeler que aujourd'hui, l'industrie et puis le capitalisme est partout. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, la danse, pourquoi ça revient? Parce qu'il y a des TikTok. Parce qu'effectivement, il y a des espaces où bah, tu génères, en fait, les rappeurs aujourd'hui, bah, ils créent des gimmicks de corps qui vont aider, en fait, à propager leur musique parce qu'effectivement, c'est économique, en fait. C'est-à-dire que s'ils ne le font pas, ils ne survivent pas. Et c'est pour ça que, moi, ce qui m'emmerde, en fait, aujourd'hui, dans cet aspect un peu industriel, c'est le fait de tuer la culture. C'est-à-dire que quand tu veux proposer de la finesse, un peu de subtilité, etc., que ça, aujourd'hui, c'est mis sur le côté. Et par exemple, dans l'idée de transmission, pour moi, il y a le fait que, de savoir en fait, que chaque génération n'est pas une génération spontanée. C'est archi difficile, quoi, tu vois, de faire en sorte que... Moi, je ne suis pas pour préserver à tout prix le patrimoine et l'héritage, mais c'est juste de se rappeler qu'il y a des choses qu'on vient pas de nulle part, en fait. C'est juste qu'on est plus fort à se rappeler qu'on appartient à une lignée, qu'on appartient à une culture, qu'on a des gens qui ont été là avant nous et qu'on peut puiser dans ce répertoire-là et prendre de la force là-dedans et de fabriquer des choses à partir de ce répertoire-là. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant que justement que le rap se renouvelle à chaque fois. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais de l'autre côté, il y a un truc qui m'intrigue toujours, c'est à quel point, en fait, on est les premiers à tuer nous-mêmes notre culture. C'est-à-dire, là, par exemple, lundi, je vais faire une émission en hommage à Lionel D. Et ben, je suis sûr que je vais me retrouver avec énormément d'anciens. J'aurai pas de gens de la nouvelle génération. Et moi, il y a un moment, je me dis, mais pourquoi j'ai pas un Alpha One qui est à côté de moi? Pourquoi j'ai pas, un dossier qui est à côté de moi? Et pourquoi il n'y a pas, je sais pas, même un Niska, quoi, tu vois?
Ouais. Mais en plus, tu dis ça, je trouve que Alpha One, avec Freeze, et c'est probablement ceux qui respectent le plus, enfin, en tout cas, ceux qui font le plus de références à l'esprit hip-hop, à l'ancienne génération.
Je suis pas à les opposer, bien au contraire. Et encore une fois, je sais pourquoi j'ai choisi ces gens-là, dans mon exemple. C'est juste, en fait, c'est qu'il y a des émissions comme les BET Awards, où tu vas avoir toujours un peu le dernier rookie de l'année, qui va toujours faire un feat avec un LL Cool J, c'est-à-dire que le rookie de l'année 85, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais.
C'est des trucs, en fait, c'est comme ça qu'une culture, elle se préserve, c'est faire en sorte que, justement, que ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de bon, ce qui a été classe, ça puisse continuer d'exister,
ouais,
malgré les modes, en dépit des modes. Et ça, c'est là où, en fait, mon boulot, il intervient.
Tu as parlé d'une tension qui t'habitait un peu en disant l'idée, c'est ne pas de conserver dans le formol, tu vois, un truc d'une époque, parce que c'est pas ça la culture. C'est mouvant sans cesse, ça s'enrichit sans cesse, ça se mélange, etc. Et tu deviens conservateur sinon, hein, ou un réac. Et c'est pas, enfin, je peux parler pour toi, mais je pense pas que t'as envie d'être un réac de la musique.
Tu sais, moi, mon œuvre, elle parle pour moi. Je me définis pas. Moi, je suis juste, je suis un artiste et je pense que dans ce que j'essaie de transmettre, il y a tout sauf une culture réactionnaire.
Et en tout cas, dans cette idée, c'est moi, presque, je dégagerais deux éléments par rapport à l'histoire, à préserver quand même des éléments d'une culture. C'est d'un côté, t'as l'aspect presque le travail patrimonial, c'est-à-dire dire non, ça on doit le préserver pour la richesse d'une culture, archiver, faire pourquoi pas même un musée, je ne sais quoi, mais au sens noble des choses, hein, pas pour les mettre dans le grenier, tu vois, mais c'est juste dire on préserve aussi la matière qui a été créée à un moment, parce qu'il faut qu'elle reste accessible dans l'histoire humaine, dans l'histoire des cultures, etc., parce que c'est important. Il y a cet aspect-là, et puis il y a un autre aspect, et ça c'est pas un truc qu'on peut demander de la part des artistes, tu vois, des musiciens d'aujourd'hui, des amateurs de rap, parce que c'est un travail particulier, c'est un travail de professionnel aussi, etc., de gens qui ont une démarche vraiment très, très, tu vois, très particulière. Par contre, il y a un autre aspect qui, lui, est celui dont on peut s'emparer, à mon avis, un peu plus dans le quotidien et tout, et là où chacun peut apporter, pourquoi pas, sa part du truc, tu vois, c'est de dire qu'en fait, à travers tout ça, c'est du politique, tout ça. C'est-à-dire du politique au sens comment on s'organise entre nous, comment on crée du lien, etc. Et en travaillant quand même la question de la mémoire, de la filiation, etc., c'est aussi une façon de se connecter aux autres, en fait, et se dire, et toi, c'est un truc, voilà, que, par exemple, tu vois, pourquoi souvent, alors je pense qu'il y a aussi du cliché derrière tout ça, mais pourquoi quand on fait un centre social dans un quartier où c'est un peu la galère, Pourquoi on met des ateliers culturels? Pourquoi on met de la musique, etc. Est-ce que, alors, on sait aussi qu'il y a une facilité, il y a des aspects politiques, etc. On pourrait en parler. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Mais c'est aussi parce que je pense que tout le monde a conscience que ça permet de créer du lien aussi, tout ça. Et qu'il y a un travail, tu vois, à effectuer.
Il y a plusieurs aspects. Bon, c'est l'aspect économique, c'est que, effectivement, faire de la musique, faire du rap en particulier, ça coûte pas cher. C'est-à-dire que si je veux commencer à faire du rock, bah, faut que j'achète des guitares, faut que j'achète des amplis, faut que j'achète. Voilà, j'ai besoin de beaucoup de matos. C'est cool avec le rap. Et la danse et la culture hip-hop, bah, je vais te dire, t'as juste besoin d'avoir un stylo, du papier. Maintenant, si je commence à mettre l'aspect graffiti de plus, bah, il te faut des bombes. Mais je crois que entre l'étoile et les pinceaux et puis la peinture acrylique et machin truc, encore une fois, ça reste une culture du pauvre. Et quand je vois en fait le budget qu'il faut pour développer un artiste de rap qui va tout faire par lui-même avec son groupe pour exister. Médiatiquement et l'économie qu'il génère, on se rend compte que c'est un espace où il y a très peu d'investissement et énormément de rentabilité. Et même humainement parlant, effectivement, pour cette musique-là, dans l'aspect culturel que ça représente, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait du lien, effectivement. La culture hip-hop fait lien. Et ça, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Quand j'ai commencé à rapper, c'était un copain, voilà, je commençais à rapper à 13 ans. Mon copain, il avait 14 ans, il était au cinquième étage, j'étais Zoxy. Et puis moi, à 14 ans, j'avais un autre copain plus jeune que moi, c'était LIM. Et voilà, et c'est comme ça qu'on s'est fait. Donc oui, ça fait du lien. Moi, je venais à la base, je viens du Pont-de-Sèvres, à Bobigny. Donc je viens du 9-3. Et j'arrive dans le 9-2. Heureusement qu'il y a eu le rap, parce que c'est le rap qui m'a permis de me faire des potes, en fait. Si j'avais pas eu le rap, j'aurais pas connu tous ces gens-là. J'aurais pas connu Ego Size, qui était le cousin de Zoxy. J'aurais pas connu. Voilà, c'est grâce à la culture hip-hop que j'ai connu des gens, en fait. Et surtout au départ, parce qu'on était peu nombreux et que c'était pas. Comme c'était pas un game, et qu'on avait. Tu vois, il y a un mot qu'on oublie tout le temps, c'est le mot unité, quoi. On avait envie de faire de l'unité, de faire du sens. Et ben, quand je suis arrivé dans cet espace-là, où on s'est dit, par le biais de l'art, on va se rencontrer, on va se trouver, c'est quelque chose qui m'a parlé. Après, c'est pas la même époque, tu vois, aujourd'hui, si tu veux te connecter à des gens, tu te mets derrière ton écran, tu trouves un centre d'intérêt, et puis à un moment, tu rencontreras d'autres gens qui ont le même centre d'intérêt, ce sera un autre point de départ, tu vois.
Sur le plan social, selon toi, qu'est-ce que... Ça permet de travailler quoi, la musique? Dans le sens où, tu vois, on parlait évidemment, par exemple, auprès d'une population jeune, plutôt défavorisée, etc. Ça, c'est le truc un peu classique. Mais t'as eu pas mal d'expérience en milieu carcéral, par exemple. Là, la démarche, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut travailler avec la musique auprès d'une population, tu vois, qui est en prison, par exemple?
Alors, déjà, il y a le fait que dans le rap, le texte est au centre. C'est-à-dire, le texte est au centre et souvent, l'interprète, c'est l'auteur. Et donc, il y a cette idée déjà de donner à sa voix de la valeur. Donc, il y a une valorisation qui se produit quand tu es dans un milieu carcéral comme dans un milieu social à risque. C'est-à-dire, déjà, c'est reprendre conscience de qui on est. Et il y a un truc qui est super bon aussi dans le rap pour ça, c'est l'ego trip. L'ego trip, c'est quand même le seul endroit à partir duquel tu dis non mais je suis fort, je suis bon, j'ai le droit. Par exemple, grâce à l'ego trip, je trouve que il y a beaucoup de femmes qui rappent et qui se trouvent et qui génèrent leur propre force, en fait. Ça, c'est un truc, mine de rien, qui fait sens. C'est-à-dire déjà se redonner de la voix, quoi.
Ouais, mais moi je crois que la culture hip-hop a joué beaucoup sur la confiance que j'ai en moi, tu vois. Genre, pour moi, toute la culture de l'ego trip, c'est aussi ce truc-là, c'est genre, tu te butes au rap, t'entends que des types qui disent « je suis trop fort, je suis le meilleur » et tout, tu vois. Et ce truc-là, il te pousse à mettre ton esprit dans ce truc-là aussi, à trouver l'axe avec lequel, quand tu te regardes, t'es fort, tu vois. Et ce truc-là, je pense que, ouais, ça a aidé plein de gens.
Ouais. C'est intéressant.
T'étais pas convaincu, Salman?
Non, en fait, tu sais quoi, je réfléchissais en fait à mon... parce que ça renvoie à soi-même, tout ça, hein, tu sais, aussi ouais. Au rapport qu'on a à la musique, et je pensais à l'ego trip, et je sais pas quel rapport j'ai à l'ego trip, en fait, tu vois, parce que... Moi, je peux pas dire, par exemple, que ça m'a apporté, tu vois, l'ego trip pour moi personnellement, tu vois, pour m'assumer ou je ne sais quoi, parce que j'ai toujours vu ça comme un exercice de style, tu vois, un peu d'une certaine manière, que je trouve intéressant, que j'aime bien, tu vois, le côté je me ramène, je kick et je dis que je suis le meilleur et on se rend dans la compétition et la compétition saine en plus, tu vois, selon moi, tu vois, avec le smile, tu vois, t'es là et où ça peut être le couteau entre les dents, mais on sait que le couteau, en fait, tu vois, c'est pas un vrai couteau. Enfin, il y a un truc un peu comme ça, tu vois, qui est, et que j'aime beaucoup dans l'émulation, dans l'énergie que ça crée. Par contre, sur le côté, plus psychologique, entre guillemets, ce que ça peut créer en nous, ce que ça peut permettre de travailler sur l'ego, sur la confiance en soi, etc. En fait, je comprends tout à fait que ça puisse toucher, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais eu ce rapport-là. C'est pas comme ça que ça m'a touché, tu vois. Je me suis pas dit, putain, en fait, ça me renforce, ça me fait du bien, tu vois. Mais c'est certainement lié aussi aux histoires de chacun, etc. À ce qu'on a travaillé, que ce soit au niveau psychologique, social, etc. Il y a plein de trucs comme ça qui rentrent en compte, tu vois.
C'est pas l'unique aspect. Il y a le droit aussi de dire ce qu'on pense. Et puis, il y a le droit de l'explicite, c'est-à-dire que pour rapper, tu peux te contenter de décrire ce par quoi tu passes. Là, il y a récemment, je suis allé faire une conférence, c'était à Château-Thierry, autour du rap et de son histoire. Et à la fin de cette conférence-là, qui était une conférence musiquée, eh bien, il y a un jeune qui vient me voir, qui me dit « Mais je peux te faire écouter un de mes textes ?» Et dans son texte, il me raconte, en fait... son histoire familiale, c'est-à-dire son rapport à son père qui est un homme violent, etc. Et en fait, j'ai accès à toute son histoire. Et il y a deux choses, c'est que cet enfant, ce jeune-là, qui devait avoir 15 ans, 16 ans, je pense que s'il n'y avait pas le texte, il n'aurait jamais pu me dire, en fait, voilà ce que je vis. Mmh. Tu vois ? Mais par contre, le fait qu'il l'ait mis en musique, déjà, ça me donne un accès, c'est-à-dire ça lui met une distance et que avec cette distance, en fait, il sublime les difficultés par lesquelles il passe, si ce n'est, pour ne pas dire l'horreur, ouais, traverse. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a comment tu vas transformer toutes les difficultés de ta vie en quelque chose de positif. Comment tu crées du propre avec du sale, quoi, tu vois ?
À fond. Et pour refaire le lien avec l'ego trip, je trouve que... pour moi, si l'ego trip perdure depuis aussi longtemps dans la culture, c'est... Bon, déjà, bon, il y a tout le côté individualiste, capitaliste, et ça correspond quand même à ce truc-là. Mais t'as aussi ce truc de, j'ai l'impression que ça te protège. Quand tu fais de l'ego trip, tout le monde comprend que c'est de l'ego trip et que 90% de ce que tu dis, tu le penses pas vraiment, tu l'exagères, etc. Et une fois que t'as ce genre de morceau qui est fait pour te protéger, on va dire, tu vois. Après, tu peux être honnête sur d'autres morceaux. Tu peux, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que t'as tout ce côté où tu vas accentuer certaines positions. En fait, ouais, ça va te permettre de générer une ambiguïté quant à la romantisation de ce que tu vas dire sur les autres textes aussi, tu vois. Et je pense que pour moi, c'est aussi ça qui fait que ça reste. C'est que comme tout le monde sait que quand tu flexes, c'est que du flex. Et
c'est un travail sur la mise à distance presque.
Ouais, voilà. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Entre autres, tu vois. Je pense qu'il y a aussi une forme juste de mimétisme, de tu vois. Mais je pense que si ça reste, il y a ce sens-là aussi, tu vois. C'est l'idée que ça te crée. Ouais, c'est comme t'as dit, Salman. J'aurais pas pu mieux dire ça. Il y a un aspect de distanciation.
Les gars, on a fait un beau tour là déjà sur la première partie, des aspects un peu plus culturels, un peu plus sociaux, etc. Et peut-être partir sur cette fameuse deuxième partie où là, ça serait un peu plus l'aspect opérationnel, entre guillemets, si je puis dire. Comment on transmet le savoir-faire, en fait, d'une certaine manière. Que ce soit l'écriture, le live, etc. Tout ça, tu le travailles. Concrètement, sur des ateliers d'écriture, d'accompagnement pour l'enregistrement, le live, tu te poses vraiment en tant que professeur. Alors, j'imagine que ça dépend des structures dans lesquelles tu interviens, etc. Est-ce que tu pars vraiment du constat que t'as un savoir-faire? T'as mis des mots dessus et t'essayes de refiler les tips, tu vois, les astuces, les façons de faire, ou c'est un travail quand même peut-être un peu plus global, tu vois, que... Parle-nous un peu de ces pratiques différentes que tu peux avoir.
Déjà, pour commencer, donc j'ai démarré la transmission à l'âge de 18 ans. Là, j'ai démarré dans une association Musique pour tous, mais de 18 ans à 28 ans, j'ai envie de dire que j'étais dans une forme de transmission orale, dans une compréhension, mais je n'avais pas, pour le coup, structuré. J'avais pas structuré mes connaissances.
Ouais.
Il a fallu que je rentre dans une association qui s'appelle l'ARIAM, qui était l'association régionale pour le développement de la pratique musicale amateur. Là, j'ai rencontré des professionnels de la pédagogie. Parce que la pédagogie artistique, c'est une pédagogie. Et donc, ça nécessite aussi d'avoir des techniques, des outils pédagogiques et une technique pédagogique. Et donc là, je suis rentré dans cette association-là, donc qui forme d'autres formateurs dans leur conception, c'est-à-dire comment, quelle structuration tu mets en œuvre en fonction des endroits dans lesquels tu vas travailler. Comment tu abordes ton métier de pédagogue, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas la même posture pédagogique si tu es en accompagnement scénique que si tu es en professorat dans une institution où on te demande d'avoir ce qu'on appelle une approche normative. Et donc l'idée, c'est que à chacun de ces endroits-là, bah, tu as une posture pédagogique et cette posture pédagogique, elle doit être adaptée. Donc, pendant longtemps, j'ai plutôt envie de te dire que j'étais sur une pédagogie un peu un contre un, c'est-à-dire t'es en tête à tête et quelque part, c'est une posture haute où toi, t'as le savoir et tu le transmets. Après, quand t'es en accompagnement de projet, je veux dire, c'est une posture où on est plutôt de l'ordre de la formation, c'est-à-dire qu'on est deux professionnels qui nous mettons au même niveau et l'idée, c'est d'offrir un regard. D'abord, ça commence par ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire rencontrer les groupes, comprendre leur histoire, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, les observer, prendre des notes, échanger énormément, et à partir de là, en fait, finalement, cartographier le groupe, là où l'artiste avec lequel tu travailles, et à partir de là, définir un certain nombre d'axes pédagogiques. Ensuite, quand par exemple, t'es dans le monde du conservatoire, alors là, pour le coup, t'as des textes cadres auxquels tu dois répondre. T'as des schémas d'orientation pédagogique qui sont très spécifiques, qui offrent de l'ouverture, notamment dans la pédagogie des musiques actuelles amplifiées. Et là, pareil, c'est quelque chose qui t'interpelle. C'est-à-dire que il faut penser l'acquisition, une transmission des connaissances sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Tu vois, moi, j'ai pas appris le rap de manière morcelée comme ça, où on va te dire, écoute, la première année, on va juste se focus sur le rythme, on va voir juste les croches, enfin, on n'ira pas plus loin que la croche. Enfin, tu vois, c'est complexe.
Ça a du sens pour toi d'envisager le rap de cette manière, c'est-à-dire
dans le hip-hop. Non, ouais. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens dans la culture hip-hop. Parce que c'est pas comme ça qu'on l'appréhende. Mais par contre, je vois que, en fait, j'arrive à percevoir ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que là où j'ai vu une approche ultra morcelée de l'acquisition et la transmission des connaissances dans le monde dans le monde normé des conservatoires, je trouve qu'elle vient très bien compléter l'approche complètement globale, enfin l'approche globale qu'on a en dehors des conservatoires, c'est-à-dire dans la rue, dans la culture de groupe, et même, je veux dire, dans l'accompagnement artistique, enfin, à travers les musiques amplifiées, et dans l'accompagnement scénique, ou bien l'accompagnement de studio. C'est-à-dire que le mot accompagnement a énormément de sens, parce que c'est toujours une approche qui est beaucoup plus globale. Et l'approche normative du conservatoire, elle est intéressante parce qu'elle est très spécifique. Et donc, quand tu commences à allier justement ces deux espaces, là, tu arrives, je pense, à un savoir-faire fin. Mais moi, je suis encore en train de me former dans cette pédagogie-là parce que c'est archi complexe. Et je vais même te dire, je crois que dans tout ce que tu entreprends, il y a un art, en fait. Il y a des gens, moi, je vois des artistes de la pédagogie. Et c'est en ça que je sais que je suis avant tout un artiste. Et tu vois, c'est-à-dire, je suis aussi un pédagogue, mais je suis avant tout un artiste parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment à la base, si je me suis retrouvé dans ce monde-là, c'est parce que j'avais envie de transmettre mon art de la bonne façon, et parce que surtout, je répète, en face de moi, j'avais des gens qui comprenaient que dalle. Donc, j'étais saoulé. Donc, c'est quelque part, c'est ça qui m'a permis de faire ce chemin-là. Je peux vous conseiller un DVD qui est super, qui s'appelle Rap Attack, qui a été fait par Chimiste, qui était le beatmaker de la Clica. Et c'est hyper intéressant parce que c'est un DVD qui date du début des années 2000. Ouais, t'as plein de rappeurs qui racontent comment leur processus créatif, tu vois. Et tu vas voir qu'il y a très peu de gens qui arrivent à vraiment poser des mots sur le truc qu'ils font depuis 10 ans ou 15 ans, tu vois. Voilà. Moi, justement, j'ai moins de 30 ans et je pose les mots dessus. Et c'était déjà très clair, en fait. Et après, par contre, il a fallu que je me forme pour avoir une précision dans...
Je me demande si c'est pas, dans ce que t'as dit tout à l'heure, tu parlais genre des rappeurs qui rappaient faux, tu vois, enfin qui étaient pas sur les bonnes notes en studio. Et ça m'a rappelé, je me suis dit, putain, mais genre, quand j'étais gamin, je me rappelle avoir lu ou entendu ce truc-là avant. Et je me demande si tu dis pas juste la même chose dans le DVD de Rap Attack et que je l'avais, quoi.
Alors, je pense que je dis ça, mais je parle beaucoup de rythme aussi. Je parle beaucoup d'écriture rythmique à ce moment-là, hein, parce que je suis vraiment à fond là-dedans. Et puis, justement, quelque part, j'essayais de faire un coucou en disant, mais attendez, mon école, ce que je développe, ça n'existe pas. Enfin, pas vraiment, en fait, en France. Faites un focus là-dessus. On sera vraiment dans le rap, parce que c'était un truc qui me permettait de rapper avec d'autres artistes qui étaient des rappeurs internationaux, des Allemands, des Espagnols et des Américains. Et quand on se retrouvait et qu'on rappait, tiens, on était tous impressionnés les uns par les autres parce qu'il y avait cette maîtrise de la rythmique, de la musicalité, quoi. Et on se retrouvait à travers ça. Ça faisait sens pour nous.
C'est intéressant, il y a un truc un peu transversal entre la première partie et la seconde partie, c'est que ça ne suffit pas, c'est pas exclusif, etc. Mais il y a quand même l'idée que lorsque tu veux être un passeur, il faut avoir un peu de réflexivité, c'est-à-dire d'approche de sa propre pratique, quoi, de réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, je mets quand même des mots, etc. Parce que si tu veux le passer après aux autres, pour que ce soit efficace, pour qu'ils captent le truc, il y a quand même une démarche à avoir pour codifier ça, pour penser le truc, etc., quoi. Alors, c'est pas exclusif, il y a pas que cette approche-là, mais à un moment, elle est quand même nécessaire aussi en parallèle d'autres choses. Par exemple, juste la passion dont parlait Michel, tu vois, il y a aussi ça, quoi.
Ouais, mais on va revenir en Wu-Tang, tu vois. Le Wu-Tang Clan, tu vois, ils sont fans de Kung Fu. Compliqué d'avoir un maître dans une discipline si lui-même, il sait pas ce qu'il fait, quoi, tu vois.
Ouais.
Donc, il y a bien un moment, faut bien quelqu'un qui s'arrête, qui dit, qui part, ça part de l'observation. J'observe ça. Je peux être efficace, par exemple, dans Kung Fu. J'observe les animaux et je leur transmets, je transpose au corps humain. Et au fur et à mesure, il y a des écoles qui naissent, il y a des développements, quoi. Enfin, comme on dit, il faut bien quelqu'un qui s'y colle à un moment donné. Et c'est ça qui s'est produit, en tout cas, à mon niveau. Et très tôt, je me suis dit, bon, il faut que quelqu'un s'y colle. Et j'ai fait, vas-y, ce sera moi. Et après, tu te rends compte que si tu, de toute façon, tu ne te poses pas ces questions-là, tu ne progresses pas longtemps. Mmh. Et moi, j'aime tellement ma zik que je voulais progresser à vie, quoi. Non, mais ouais. En fait, ça partait de là, en fait, c'est réellement... parti d'un désir de faire du rap tout au long de ma vie parce que j'aime la musique. En fait, moi, je voulais être un artiste de rap comme d'autres voulaient être des artistes de jazz ou de rock and roll, tu vois.
Il y a un truc intéressant, je pense, à aborder. Alors, c'est une grande thématique. Limite, un jour, on fera une émission dédiée à ça, mais c'est... pour accompagner les gens, tu peux le faire en indépendant, c'est-à-dire que tu montes ta propre structure, etc. Ce que tu fais, j'imagine aussi, du coaching vraiment en ton nom uniquement, mais il y a aussi les structures.
Ouais, par exemple, je travaille pour le studio des variétés, en l'occurrence, qui est en fait une structure qui accompagne les artistes professionnels. Tu vois, ou comme je te dis, je travaille dans des structures établies, des structures institutionnelles, comme on l'a dit tout à l'heure, le conservatoire de Cergy-Pontoise, qui est un conservatoire régional ou un conservatoire communal comme à Puteaux.
Ouais, et alors, la grande question, alors c'est une question éternelle dans la musique, hein, et qui se pose depuis longtemps, c'est comment ces structures, notamment institutionnelles, elles s'emparent des formes un peu plus actuelles, un peu plus récentes, contemporaines de musique, là où il y a eu une tradition historiquement des formes d'enseignement vis-à-vis de musique plus considérée aussi. Et comment elles s'en emparent, quels moyens elles mettent à disposition? Parce que toi, tu l'as vécu, ça, t'étais dedans. Donc tu sais quels sont les moyens mis à disposition. Est-ce qu'on peut transposer si facilement les pédagogies? Est-ce qu'on accepte qu'il y a des approches différentes? Est-ce qu'on a conscience réellement de ce qu'on enseigne au sein de notre structure, tu vois?
Ouh, il y a beaucoup de questions.
Ouais, mais tu vois, il y a un truc commun dans tout ça. Hein.
Alors, pour te répondre, soyons clairs, les pédagogies ne se transposent pas. C'est-à-dire que il y a des points communs, mais déjà, la pédagogie, elle t'appartient. C'est toi, en tant que pédagogue, qui vient avec ce que tu es, ton histoire. Et là-dedans, tu as des outils, par contre. Tu as des outils pédagogiques qui peuvent s'utiliser à certains endroits, qui sont pertinents à d'autres. Donc, maintenant, au niveau des institutions, en fait, ce qui fait bouger les institutions, quelles qu'elles soient, ce sont les gens. C'est-à-dire que, pour le moment, moi, quand je suis rentré à Puteaux, c'est Alain Johnny, qui était un trompettiste de jazz, qui avait une volonté de transformer la division musique actuelle de ce conservatoire-là, qui avait beaucoup d'élèves, près de 500, c'est énorme, et qui avait déjà entrepris de recruter des gens, Jérôme Castry, qui était le batteur d'Alpha Blondy, de Cassav, qui avait joué sur mon album Soul Inside, qui s'est retrouvé là-bas par hasard, hein, rien à voir. Il y a un prof de clavier qui s'appelle Wendy Milton, qui est l'arrangeur d'Aquanaru, qui fait... Éric Briand, qui fait des prods pour Kalash Criminel, enfin... Mais au moment où ça s'est amorcé, ils n'en étaient pas là, tu vois. C'est juste, il y a déjà une volonté d'une personne de dire, il est important de transmettre avec des gens qui ont déjà un rapport au métier. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on demande à des professeurs, enseignants au conservatoire, souvent d'avoir un diplôme d'État, et dans le diplôme d'État que tu dois passer, on te demande d'avoir une activité professionnelle. On te demande d'être aussi artiste. Et de l'autre côté, il y a quand même cette réflexion de fond qui est menée pour dire que quand même la transmission, elle est plus efficace si tu es en lien avec ce que tu transmets.
Mais il y a toute la question de la crédibilité aussi en tant que prof. Tu vois, genre, je pense à la, par exemple, la série de vidéos Masterclass. Tu vois, je sais pas si tu vois.
Ouais, je vois tout à fait.
Avec Hans Zimmer et compagnie. Là.
Ouais,
ce
voilà.
Ce qui pour moi est absolument pas de la pédagogie. C'est vraiment plutôt, c'est des artistes. C'est-à-dire, c'est de la transmission pour le coup.
Ouais, voilà. Ouais, voilà.
On est purement dans la transmission, mais pas forcément dans la pédagogie. Il y a pas un acte de réflexion où, par exemple, t'as une personne qui se dit, mon élève, il part de cet endroit-là, il doit arriver à tel endroit, et on va trouver les chemins les plus adaptés pour qu'il y arrive.
Ouais, voilà, c'est ça.
Pour en revenir à ce qu'on disait, c'est-à-dire que le monde institutionnel, pour l'instant, il y a très peu d'espace pour la culture ou les cultures hip-hop. Alors, la danse a œuvré pour faire sa place dans le monde institutionnel depuis longtemps, ce qui fait qu'il y a déjà deux ou trois scènes nationales dirigées par des anciens danseurs de hip-hop. Ce qui veut aussi dire que la danse hip-hop est intégrée au conservatoire, sachant que je crois que la danse, elle passe hélas en jeunesse et sport. Tout ça pour dire que moi, je voyais de l'ouverture parce que j'avais la chance de fréquenter des gens qui viennent du même creuset que moi. Enfin, moi, je viens du même creuset qu'eux, on va dire. Parce que j'avais, en gros, des gens comme Laurent Colombani, avec qui je travaille et dans le monde pédagogique et dans le monde artistique, ou des gens comme Arnaud Vernet. Voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés à l'Ariam. Et donc, on vient du même creuset avec donc des gens qui pensent la pédagogie artistique dans son quotidien. Donc, quand effectivement, tu as des gens qui viennent de ce creuset-là, on a une réflexion de fond qui est menée au niveau institutionnel. C'est plutôt rare. C'est encore rare.
Michel, t'as déjà pris, toi, des cours autour de la musique?
Aucun cours.
T'as pris aucun cours?
Non, si, j'ai eu... Je t'ai dit, j'étais au conservatoire pendant un an. Mmh. Et donc, voilà, j'ai eu des cours de composition à l'image, musique à l'image, essentiellement. Donc, musique de film, machin, j'ai appris... quelques trucs là-bas, mais c'est pas un cadre qui est fait pour moi. Moi, je suis vraiment trop chaotique pour ce genre de trucs, tu vois.
C'est quand même déjà archi fort d'avoir de la musique à l'image. Tu peux me donner le nom de ton conservatoire, parce que je trouve ça vachement fort.
C'est le Conservatoire Royal de Mons. Donc moi, je suis en Belgique.
D'accord. Déjà l'approche du conservatoire en Belgique, elle est complètement différente de l'approche française, tu vois.
Ouais, à fond. Déjà, par exemple, ce que vous appelez le conservatoire en France, c'est ce que nous, on appelle l'académie. Donc, c'est là où tes parents, ils t'inscrivent quand t'es petit, en général, ou tu vas t'inscrire plus tard. Mais en gros, souvent, c'est ça. On t'inscrit là-bas quand t'es petit, t'as 8 ans, tu fais 2 ans de solfège, tu apprends un instrument. Et puis, à la fin de ce truc-là, t'as 20 ans et tu es censé maîtriser un instrument. Le conservatoire, c'est la haute école de musique, on va dire, tu vois.
Parce que c'est vrai qu'en France, on a aussi le conservatoire, puis on a les écoles de musique, les écoles nationales de musique, qui en général sont quand même aussi un peu plus ouvertes et un peu plus à la pointe de certains enseignements. Peut-être qu'on peut y trouver d'ailleurs la musique à l'image en France, j'en sais rien, dans des ENM, tu vois.
Du coup, nous, c'est post... Enfin, moi, en tout cas, je suis rentré au conservatoire post-bac, on va dire, tu vois. Genre, je suis arrivé là, j'avais mon bac, je savais pas quoi foutre. Et on m'a dit, ah, là-bas, ils font des trucs musique à l'image. Toi, ça fait un an que tu joues de la guitare. Ça a l'air de te chauffer, ben vas-y, fais ça, tu vois. Donc j'étais là-bas. Et là, ben, j'ai surtout pris goût à ce truc. Plus que quoi que ce soit d'autre, en vrai, les informations, comme j'avais pas. En fait, j'avais aucune formation musicale à ce moment-là. J'ai appris quelques tips et tricks, mais le gros de la théorie, je l'ai appris sur une période beaucoup plus longue et sur internet, dans des bouquins, à coups d'essais-erreurs, tu vois, de remise en question, tout ça, tu vois. Le cadre scolaire n'a jamais été super bon pour moi et j'ai testé ce truc d'aller un peu pour la garderie pour adolescents, tu vois, genre, l'idée c'était ça, c'était de pas affronter le monde du travail tout de suite et de, bon, il fallait bien faire un truc, à ce qui paraît, il faut des diplômes et tout, donc j'ai commencé, puis j'ai dit non, vas-y, c'est dead, plus jamais ce cadre-là. Et donc, je suis parti chercher des contrats, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, je vais me former sur le tas, comme on dit, tu vois. Mais il y avait des profs très cool. C'est, j'allais vraiment que le lundi, j'avais 2 heures au matin de cours de vraiment pratique de musique à l'image. Et en gros, au bout d'un moment, je faisais plus que ça, tu vois. J'allais aux 2 heures ce jour-là. Et puis, le reste de la semaine, je travaillais dans mon coin, sur mon PC. J'allais sur YouTube, je diguais des tutos, je downloadais des PDF et tout ça, tu vois.
C'est intéressant, ça, parce que ce parcours, parce que je pense qu'il est assez représentatif, tu vois, de celui de beaucoup de musiciens. Dans le sens où on lit souvent l'enseignement de la musique à prendre des cours autour d'un instrument, par exemple.
Ouais.
L'écriture, alors peut-être pas dans un conservatoire, en tout cas l'atelier d'écriture est aussi un peu plus inscrit, tu vois, dans les façons de faire, dans les pratiques des gens, tu vois, on se dit oui, effectivement l'atelier d'écriture ça existe, etc. Mais en parallèle, on sait que il y a plein d'autres formes d'apprentissage qui se développent, évidemment en mode un peu plus indépendant avec les tutos, etc. sur internet, qui sont devenus un truc extrêmement important avec la MAO qui s'est démocratisée de ouf. Et j'ai l'impression qu'il y a des pans qui, eux, par contre, sont complètement mis de côté. Par exemple, typiquement, la performance live. Travailler la performance live. C'est un truc... Enfin, je pense que peu de musiciens ont conscience que ça peut être le cas. Alors, quand t'es accompagné par une maison de disques, par exemple, des choses comme ça, on peut te dire, tu sais que ça existe, ça, viens, on va bosser ça, etc. Mais pour l'artiste un peu plus lambda, entre guillemets, ou indépendant, etc., peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un truc, j'ai l'impression... On n'a quasi pas conscience que ça existe, ce travail vraiment du live, l'enseignement, etc.
Bah, alors déjà, en live, déjà, tu n'es déjà plus dans une approche d'enseignement, parce que tu es dans une approche de pratique et de développement de ta pratique. Donc, il faut que tu aies déjà un certain niveau de pratique. L'endroit où la pratique amateur est valorisée, là, pour le coup, en France, on a des super réseaux. On a, par exemple, à Paris, il y a le réseau Île-de-France, il y a pas mal de réseaux régionaux. Et il y a une bonne organisation parce que, en gros, dans le rock, ils ont fait le boulot il y a 20 ans.
Avec tous les SMAC et tout comme ça.
Voilà, de transformer des salles indépendantes de diffusion de concerts et des espaces de répétition, de faire un travail pour le coup avec l'institution, travailler avec le ministère de la Culture et donc d'avoir des agréments et d'avoir une réflexion de fond qui est menée là-dessus. Donc, c'est là où est apparu le mot musique actuelle amplifiée, dont fait partie le rap. Et là, je parle bien du rap parce que c'est hyper intéressant comment, en fait, au niveau musical, on s'inscrit dans une lignée. C'est-à-dire que le rap, ça s'inscrit quand même dans la lignée du blues, du rhythm and blues, du jazz, de la soul, du funk. Et donc, à partir du rap, on a eu l'émergence des musiques électroniques. Il y en a qui les voient de manière consécutive, il y en a qui voient ça en parallèle. Parce qu'il y a vraiment deux écoles dans la musique électronique. Il y a la musique électronique qui est descendante du rap, et puis il y a une musique électronique qui est descendante de toute l'approche électro-acoustique.
Est-ce que le rap pourrait pas descendre aussi un peu de la musique électronique? Dans le sens où l'électro-funk, la musique du futur... Le rap, parmi les premiers rappeurs, t'as les mecs qui voulaient faire la musique du futur, et ça passait par les machines électroniques, etc. Tu vois, les trucs genre Man Parrish, etc., tu vois, ce délire...
C'est hyper intéressant.
On pourrait voir l'inverse aussi, le rap qui découlerait de la musique électronique.
Il y a des gros débats là-dessus, et là, justement, moi, ça m'intéresse de retravailler avec des chercheurs, parce que... il y a quand même des trucs qui sont dits, des choses que je peux lire, qui collent pas avec l'histoire telle que racontent les anciens jeunes des années 70, dans leur approche musicale, quoi. Mais ça m'intéresse, en fait. Justement, là, je pense que il y a vraiment des gens qui ont une histoire, et c'est intéressant de voir, en fait, à quel endroit ils sont racines et eux-mêmes, où est-ce qu'ils puisent leur héritage, tu vois.
On parlait effectivement du travail qui était fait dans les réseaux. C'est vrai que les résidences aussi, quand même, c'est un truc qui est assez intégré dans le monde musical.
D'abord, il y a un truc qu'il faut dire, c'est quand t'es amateur, c'est comment tu fais pour travailler ta scène. Déjà, tu vas dans les, tu prends des heures dans des salles de répétition. Mm-hmm. Faut savoir que en France, dans chaque département, t'as une scène de musique actuelle amplifiée. Donc, et puis même souvent dans les villes, tu vas avoir un espace municipal. T'as un espace municipal souvent où tu peux faire où t'as des salles de répétition. Si c'est pas municipal, c'est départemental. Donc il y a quand même 2-3 salles dans le département où tu peux aller faire des répétitions. Et que à partir de ces endroits-là, tu vas toujours rentrer en contact avec un régisseur. Souvent, les endroits où il y a des salles de répétition, il y a aussi ce qu'on appelle il y a aussi des scènes qui sont proposées, donc des spectacles. Donc c'est aussi des lieux de diffusion. Donc, quand tu as un endroit où tu as un lieu de diffusion et des salles de répétition, bien souvent, en toquant, en venant régulièrement et en frappant à la porte, tu as ce qu'on appelle des dispositifs d'accompagnement des groupes. C'est-à-dire que quand on te voit venir plusieurs fois répéter, au bout d'un an, 2 ans, on te dit, mais tu n'as pas un projet? Est-ce qu'il est ficelé? Est-ce que tu as besoin de choses? C'est quand même un truc qui se fait beaucoup en France, qui est assez phénoménal. C'est-à-dire qu'on a plein de trucs sur lesquels on peut râler, mais pas sur ça, pour le coup. C'est quand même un endroit qui offre la possibilité à des amateurs d'avoir un environnement qui leur permet de se professionnaliser. Il suffit juste d'être assidu et à chaque fois de faire savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire parler au régisseur, aller voir le programmateur, lui demander s'il y a de la place, lui faire écouter ses démos et dire aussi c'est quoi ses besoins. C'est-à-dire dire j'ai besoin d'être meilleur sur scène, comment je peux faire. Et bien souvent, avec ça, il y a une réponse.
Concrètement, quand tu fais un cours, je sais pas comment il faut, quel est le bon terme, hein, mais sur la perf scénique, tu as sur le live.
Là, je fais jamais de cours. Je fais pas de cours sur une perf live. Et je répète, je viens accompagner en live. C'est-à-dire que, en fait, il y a pas de cours qui vont t'expliquer comment tu dois être le plus toi-même, le plus naturel et le plus vrai.
Mais je comprends tout à fait. Mais concrètement, c'est quoi? Tu es sur scène avec l'artiste, tu vas lui montrer, tu vas juste lui dire, ok, moi je pense que tu pourrais faire ça.
Concrètement,
comment ça se passe? C'est pas que du développement personnel non plus, je pense.
C'est pas ce dont on parle. Je dis juste qu'il n'y a pas de cours de ça. J'ai pas dit, maintenant on va rentrer dans qu'est-ce qui se passe de manière précise. De manière précise, c'est déjà, t'arrives, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu fais un diagnostic, t'as besoin de communiquer avec les gens avec qui tu vas travailler. Et donc, tu as besoin de comprendre la démarche, c'est quoi le projet, c'est quoi l'ambition. Donc, si déjà, tu n'as pas ça, tu n'as pas l'info. Donc, tu ne peux pas correctement travailler. Après, tu as besoin de les voir dans leur environnement. C'est-à-dire, par exemple, un groupe qui ne sait pas faire ses balances, c'est un groupe qui va avoir du mal à trouver un son de plateau. Donc, si tu ne sais pas faire ton son dans une salle de répétition, tu vas avoir du mal à faire ton son sur une scène. Et si tu as du mal à avoir ton son sur une scène, tu vas avoir du mal à être bien sur scène. Et donc, tu auras du mal à t'exprimer. Tu vois ? Donc l'idée, c'est déjà d'observer les gens dans leur environnement. Est-ce qu'ils savent communiquer entre eux? Est-ce qu'ils savent faire le son entre eux? Est-ce que tous, ils ont la même perspective du projet dans lequel ils sont? C'est-à-dire qu'il y a des fois, t'es là, t'as ce qu'on appelle le meneur de projet qui dit « Ouais, alors voilà, on a décidé de faire un groupe. » En fait, la vérité, c'est « J'ai décidé de faire un groupe, et puis je suis allé trouver des gens qui seraient OK pour jouer avec moi. » Mais t'as les autres qui sont là.
On reconnaît tous, c'est comme ça.
Et tu vois, et t'as les autres, tu vois, t'as, par exemple, t'as le clavier qui va te dire, ouais, bon, je suis là parce que j'ai besoin de bosser mon piano, mais en fait, sinon, le projet, je m'en fous. Ou par exemple, où tu peux parler avec un groupe, et puis tu dis, bon, voilà, ça fait 3 ans que vous jouez ensemble, vous avez 5 morceaux à faire pour votre prochain concert. En fait, ils parlent de quoi le premier morceau? T'as tout le monde qui se regarde en disant, ouais, mais ils parlent de quoi le premier morceau? Parce qu'en fait, personne n'a pris la peine d'écouter le texte, en fait. Ça arrive. Déjà, ça commence à déblayer tout ce territoire-là, faire en sorte que, est-ce que le groupe est dans la même perspective? Est-ce que tout le monde sait pourquoi il est là? De quelle manière chaque personne a envie de s'investir dans le projet? Et quels efforts chaque membre du groupe est prêt à faire? Donc, la première des choses, c'est savoir observer ça, savoir faire en sorte que la parole, elle se libère, que finalement, tout le monde regarde au même endroit. Et après, tu peux rentrer dans des choses techniques, c'est-à-dire développer ce qu'on appelle le ressenti de jeu, que tout le monde ressente la pulsation de la même façon. Tu vois, par exemple, je sais pas, si tu joues quelque chose, je vais être un peu technique, on va aller un peu loin. Tu vois, si tu joues un rythme à 5 temps, est-ce que tu vas entendre 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ou est-ce que tu vas entendre 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, voilà, si déjà vous n'êtes pas d'accord sur la façon de percevoir la pulsation, vous n'allez pas jouer ensemble. Pareil, est-ce que quand par exemple, on va rester dans le domaine du hip-hop, tu vois, par exemple, est-ce que tu vas avoir un ressenti binaire ou un ressenti ternaire de ta pulsation. Par exemple, moi, souvent, j'entends le truc, ça fait... Donc, en fait, je vais avoir ce qu'on appelle une double croche swingée. Bah, si moi, je la ressens swingée, j'en ai un autre qui fait... Tu vois, et si on ne ressent pas le rythme de la même façon, la subdivision de la même façon, eh ben, on n'aura pas le même groove. Bah, si on n'a pas le même groove, bah, en fait, on ne va pas sonner correctement les uns avec les autres. Quoi. Voilà. Comprendre aussi, tout à l'heure je parlais d'ajustement, faire en sorte que, est-ce que tout le monde comprend ça, quoi? Parce qu'il y a des fois, t'arrives dans un groupe, non, ben, moi je chante au feeling, je rappe au feeling, je sais pas où je démarre, bon bah voilà, t'es obligé de faire un travail sur le texte en disant, bon bah focus sur le texte, où sont tes points de départ, quel est ton premier temps sur chaque morceau, sur chaque phrase. Donc voilà, ça c'est très technique.
Ouais.
Donc en fait, on propose, d'abord c'est de l'observation, d'abord c'est de l'humain. À partir de l'humain, une fois que l'humain est clarifié, on peut rentrer dans une approche technique. Et dans cette approche technique, on va voir quels sont les besoins en fait, des groupes accompagnés. Et à partir de ces besoins, on va faire une feuille de route de travail.
Est-ce qu'il y a parfois aussi un travail sur le corps, se mouvoir, se placer, etc.
Il faut que le besoin soit là. Par exemple, si je suis dans un groupe où tout le monde a le même ressenti de corps, que tout le monde balance ensemble, ça se trouve, c'est pas nécessaire. Ou ça devient une étape, mais une fois que le groupe a déjà tourné un an, quoi. Et ça dépend du besoin du groupe. Par exemple, s'il y a effectivement t'as un groupe qui base son show principalement sur la chorégraphie, et puis ils sont quatre, et puis il y en a deux qui sont en armoire, bon, bah ouais, il va falloir travailler le corps. Tu vois? Parce que le mouvement fait partie du spectacle et qu'il est inhérent au spectacle, donc il faudra le travailler. Et tu vois, ça, tu peux le faire que si tu diagnostiques le projet, en fait. Sans compréhension du projet, tu ne peux pas apporter les bons outils pour travailler le projet. Et tu vois, si tout d'un coup, moi, j'observe que faut un travail de corps et que ce n'est absolument pas la demande du groupe, mais par exemple, je vois que le projet, tel qu'ils le présentent, tel qu'ils en parlent, ils en ont besoin, bah, je vais quand même devoir trouver une façon de faire prendre conscience au groupe qu'il y a ce besoin-là. Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Mais une chose est sûre, c'est que l'approche haute, la posture haute, ne marche pas.
Avant de conclure, un dernier petit point qui ferait un peu le lien de la première partie, la deuxième partie, etc. C'est, tu viens de la culture hip-hop, c'est ton art avant tout. Dans toutes tes pratiques de transmission, de pédagogie en parallèle, j'imagine qu'il n'y a pas que dans le milieu hip-hop que tu travailles. Est-ce que ça a été évident pour toi, même si tu as des passions pour d'autres styles musicaux, etc., de passer d'une pédagogie très hip-hop à d'autres styles musicaux, accompagner d'autres artistes, d'autres gens, d'autres... Tu vois comment c'est... Est-ce que c'est facile d'étendre ensuite sa pratique quand on vient du hip-hop aux autres musiques de manière générale?
Je pense que tu pourrais poser la question à n'importe quel artiste qui évolue dans un style. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, je répète, les styles et les pédagogies ne sont pas transposables. Si tu viens du jazz et que tu viens du classique, les techniques que t'as apprises en classique et en jazz, tu ne vas pas pouvoir les appliquer en pop et en rap. Tu ne peux pas. Donc déjà, la première des choses, c'est déjà de prendre conscience de l'endroit d'où tu viens et de faire le chemin. C'est-à-dire que quand tu dois ouvrir en fait ton approche esthétique, il faut bosser, quoi. Et moi, c'était bien ce que je voulais. je voulais vraiment travailler la musique, je voulais être un musicien. Et je comprends avec le temps que je suis définitivement hip-hop, définitivement rap, mais que j'aime énormément les musiques actuelles amplifiées. Et je parle bien des musiques actuelles amplifiées. Donc, il se trouve que c'est mon histoire aussi. C'est-à-dire que avec le sampling, j'ai été énormément imprégné de la culture jazz, que j'ai eu la chance d'avoir un groupe, d'avoir un backing band en 2006, ça s'appelait Velvet Club, que j'ai fait mon troisième album, Soul Inside, avec la crème des musiciens soul funk français, que donc finalement, toute mon expérience de vie m'a permis en fait, d'avoir cette culture des musiques actuelles amplifiées. Et que finalement, il m'a été difficile de tu vois, de glisser du hip-hop vers, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, mon glissement, ça s'est fait hip-hop vers le hip-hop joué, vers la soul, vers le funk, et puis de plus vers le jazz. Après, j'ai eu de plus en plus de connexions. Et puis ensuite, j'ai été amené à travailler parfois avec des groupes de rock, de groupes de métal. Alors, voilà. C'est-à-dire, si on a besoin de faire un travail de précision, notamment sur du métal, bah, c'est pas moi qu'on va appeler, quoi. Par contre, si par contre, il y a besoin d'un travail précis, notamment sur l'approche rythmique du texte, là, on va m'appeler. Par exemple, je peux être amené à coacher beaucoup de groupes de funk, parce que dans le funk, en fait, le débit, la scansion, elle est très rythmique. Et dès lors, là, bah, moi, j'ai une pertinence. Que l'approche du groupe aussi, au niveau de l'approche du groove, de l'approche harmonique, du style qui est joué, oui, je vais avoir une pertinence. Par contre, accompagner un groupe de jazz, fusion et tout, non, ça, je ne serais pas pertinent. Parce qu'en gros, il me faudra d'autres outils. Et par exemple, aujourd'hui, moi, il y a des choses qui m'intéressent énormément, comme tu vois, tout ce qui se fait en pop music et tout, où, tu vois, je sens que j'ai aussi besoin d'être formé, quoi. Par exemple, quand il faut emmener quelqu'un sur un travail précis, sur la voix, par exemple, sur la voix chantée, c'est hyper technique. C'est hyper technique, c'est-à-dire comment tu fais travailler, comment tu fais s'articuler le corps, le ressenti, l'émotion, le travail voilà, vocal, l'air, tout ça. Bon, voilà, il y a des techniques qui sont très efficaces en rap, mais qui sont inefficaces pour accompagner une chanteuse pop ou une chanteuse de jazz, ou, voilà, qui sera complètement... Puis pareil, tu as des techniques en jazz qui sont complètement inappropriées par rapport à une chanteuse lyrique. Enfin, voilà. Il y a vraiment chaque esthétique à ses spécificités. Il faut bien les connaître. Et surtout, il faut savoir quand tu ne les maîtrises pas, quand tu ne les as pas, pour justement faire en sorte que tu donnes les meilleurs outils possibles dans le cadre dans lequel tu es.
Bon, c'est le travail de toute une vie.
Ouais, encore une fois, c'est le travail de toute une vie. Si tu veux être artiste de la pédagogie, moi, j'avoue, je répète, hein, à la base, enfin, soyons clairs, ça me passionne, mais ça me passionnera jamais autant que de me retrouver en studio.
Faire de la musique et des albums.
Voilà, fabriquer. Moi, par exemple, mon kiff, c'est de fabriquer des disques. C'est-à-dire de me retrouver en studio, réfléchir à un son qu'il y a dans ma tête, me dire, mais attends, avec quel bassiste je vais jouer, quel ampli on prend, tout ça. Tu vois, pour avoir voilà, la représentation. L'image que j'ai dans la tête, l'image que j'ai dans les oreilles, moi j'adore cette alchimie-là, tu vois. Et le fait de faire tout ce travail-là, d'accompagnement, discuter avec tous ces artistes en devenir, en fait, c'est me reposer des questions d'artistes avec d'autres artistes.
Ouais, ça t'a enrichi aussi, en fait.
Ça nous enrichit tous les uns les autres, en fait.
C'est cool.
Each one, teach one. Encore,
t'as vu, on y revient. Voilà.
Michel, tu veux le mot de la fin? T'as un truc à nous dire? Une réflexion?
Ah non, moi là, je pense que on a dit l'essentiel. Enfin, Kondo a dit l'essentiel.
Absolument. On avait un bon invité, Michel.
Oh, oui.
Bon, Kondo, merci beaucoup d'être venu nous
gars.
Voir.
Merci pour l'invitation.
Bah, c'est un plaisir. Tu reviens quand tu veux. Pour le moment, on est au 11e épisode d'ailleurs. Et Michel, prochain 12e, un an. Les 1 an de l'émission.
Oh là là.
Il va falloir qu'on réfléchisse quand même à ce qu'on fait. Mais on fera, peut-être pas tout de suite, mais à l'occasion, peut-être un revival, peut-être une espèce de table ronde avec des invités marquants ou une thématique, tu vois, où ça pourrait coller. Donc, écoute, on espère t'avoir à nouveau dans le futur, dans l'émission. Si t'as envie, si on t'a
avec
pas traumatisé.
Avec plaisir, moi, je suis là tout le temps, si vous voulez, hein, moi, j'adore. Non, mais moi, j'adore, je suis dans le tempo. Et puis, j'aime beaucoup, en plus, votre titre et tout.
Let's go.
C'est
cool.
C'est trop mon... Ah, j'ai que le mot anglais, my motto, comment on dit, mon credo, trop mon credo.
Ouais, voilà.
Tu vois, vraiment ça, être dans le tempo, tu vois, dans la vie, Soit tu tapes avant le temps, sur le temps ou après le temps. Moi, j'aime bien être sur le temps.
Écoute, on essaie d'être toujours dans le temps.
Voilà, c'est ça, quoi.
Nous aussi. Après, tu vois, le petit groove légèrement décalé, ça peut être intéressant aussi.
Pour une
syncope,
mais...
C'est ça.
Syncopé.
Les gars, où c'est qu'on peut... Qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant? Où c'est qu'on peut vous retrouver sur Internet, un projet en ce moment? Kondo, qu'est-ce que...
Plus haut que la Tour Eiffel, mon prochain spectacle, c'est le 12 juin sur la scène nationale de Cergy, le 18 à Aubonne, à l'Orange Bleu, et le 20 juin prochain à Montreuil, sur la scène du Théâtre Berthelot. Et puis la réédition de mon troisième album, qui s'appelle Soul Inside, le 16 mai prochain.
Écoute, on refera un petit rappel quand ça sortira. Michel, toi.
Pareil, tout pareil.
Toi aussi, t'as des projets de spectacle, d'albums, etc.
Ouais, le même. Je suis sur tout ça. Je suis là.
Bon, bah, t'as un nouveau collègue, je savais pas.
Mais... Non, mais mortel, moi je prends Chronos. Ouais.
Ah, Zizi Kaka Mixtape 2021, on charbonne et voilà.
Yes, yes.
Et toi, mon petit Salman, fais ta promo là.
Ça charbonne aussi. Michel, je veux pas te mettre dans la merde avec les collègues, etc. Mais nous, on a fait une suggestion avec Renoiser de la chaîne pour la Zizi Kaka Mixtape.
Voilà. Oui, bah, ça arrive.
Écoute.
J'ai downloadé les multi, on est là, on est en train de travailler ça.
La collab est en cours.
Voilà.
J'espère que ça sera bien. On va essayer de faire ça.
Bien sûr que ça sera bien. Si c'est pas bien, ça dégage.
Bon, en tout cas, on a donné de la bonne matière, normalement.
Ah oui, non, c'est de la très bonne matière.
Et écoute, je suis content. Donc voilà, et ça, les vidéos, comme d'habitude, vous connaissez. Et puis, bah, vous savez, quand même, pour terminer à chaque fois, je vous le demande, supportez-nous, abonnez-vous, faites votre maximum pour parler de l'émission autour de vous. Voilà, on essaye de fournir un contenu le plus qualitatif possible.
Si chacun envoie le lien à 1000 personnes...
Exactement, on va faire une chaîne. Il faut relancer les chaînes par mail.
C'est clair.
Facebook, Michel... Bref, on vous retrouve dans, non pas dans un mois, mais normalement dans 15 jours. Putain, incroyable. Yes, Michel,
quelle cadence. Allez, ciao, ciao, les amis.
Kondo, merci. Restez encore. À bientôt, tout le monde.
Peace.
Bye bye.
Ciao, ciao.